Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. On se retrouve pour un nouvel épisode de Valley Hoop après notre double bilan aux deux tiers de la saison, donc on avait fait après le All-Star Break, et on va rester un peu dans la même vision un peu plus globale là, de la saison des Suns, c'est ce qu'ils ont proposé depuis octobre dernier, sur un thème un peu plus orienté autour de la tactique de l'équipe. Et donc voilà, on a plein de choses à dire et on a un invité de choix pour parler de Suns et de tactique. Avant d'introduire notre invité, je vais déjà dire bonjour à nos deux copains de Valley Hoop et commencer par Greg qui fait son retour. Donc après son absence lors des deux émissions précédentes, comment ça va, Greg?
Eh bien, écoute, ça va très bien. J'étais ravi de vous écouter, discuter et noter un peu cet effectif sur l'échelle de Nash, que je trouve toujours vraiment trop cool. Et c'était vachement intéressant de vous suivre sur ces deux épisodes, les gars. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé écouter ça si je ne pouvais pas participer. Mais je suis aussi très heureux et surtout très heureux d'être de retour aujourd'hui. À 4, là, on est vraiment chargé à bloc. Puisque là, Hicham va prendre la parole juste après moi. Je suis là, tu es là. On a un invité en plus pour discuter des Suns, donc ça va être vraiment trop cool. Ravi d'être là.
On a doublé un peu le contingent par
Ouais, c'est
rapport
ça,
aux dernières
exactement.
émissions, tout simplement. Parce qu'effectivement, oui, Hicham est toujours là, bien sûr. Comment ça va, Hicham?
Ouais, ça va, tranquille. On va vite passer à l'invité, bien plus intéressant que moi, mais ça va. Très content d'être avec vous, les gars.
Ouais, disons que les auditeurs, pardon, sont plus habitués sans doute à te voir dans l'émission que lui. Bah, c'est la première fois qu'on le reçoit en fait, tout simplement. Ça nous fait très plaisir parce que ça fait un moment qu'on essaye et que voilà, on se tourne un peu autour et qu'on essaie de l'inviter dans l'émission. Donc voilà, un des références, on va dire, du podcast francophone sur le basket et sur la NBA en particulier. Hein. Il a officié pendant des années à l'Écho des Parquets. Il a monté son propre podcast il y a un peu plus de 2 ans, je crois, où il distille ses analyses fines et ses jeux de mots approximatifs, on va dire ça comme ça. C'est Guillaume, donc du Basket Live, que vous avez sans doute reconnu. Comment ça va, Guillaume? Bienvenue dans Valley Hoop.
Merci, merci, merci de l'invitation. Déjà, ça fait plaisir. Et puis, bonjour à tous. Et ouais, ça fait plaisir, même si apparemment j'ai cette image de Laurent Ruquier du NBA français qui me colle à la peau,
Non,
apparemment.
c'est faux, c'est faux. En vrai, c'est faux. Moi, j'aime bien cet humour du basket là. Franchement, en toute honnêteté, je le trouve assez rafraîchissant.
Et effectivement, oui, dans approximatif, parfois ça tombe juste. Non, en
Ah
plus,
oui,
c'est
complètement, ouais.
pour chambrer parce que je sais que t'aimes ça aussi, mais en vrai, non, ça fait toujours plaisir et c'est aussi l'un des grands atouts, moi, je trouve, de ton podcast, c'est qu'on sent que tu prends du plaisir quasiment à chaque instant et pourtant parfois c'est très long donc c'est vraiment cool. Voilà, donc Guillaume, tu es le bienvenu dans Valley Hoop et on va parler de tactique aujourd'hui autour du jeu des Suns et de ce qu'il propose là sous l'égide de Frank Vogel, de son coaching staff, avec ce roster là actuel qui a un tout petit peu changé ces derniers jours. On l'a vu, on en a parlé un petit peu lors des émissions précédentes. Bah messieurs, on va pas perdre plus de temps, c'est le lancement traditionnel de Valley Hoop après générique. C'est parti pour ce nouvel épisode. Back with the Remus. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took. Wet like I'm book. Raising up. Deep three on the way. Oh, Durant goes. Boom. That is just. Oh. Sun came out. I went about to drop top. On est donc dans Valley Hoop pour parler tactique, pour s'interroger un peu sur ce que nous proposent les Suns. En termes de choix de jeu, en termes de fond de jeu, en termes de système. Et donc, on va profiter des lumières de Guillaume sur ce sujet. Alors, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers du Basket Lab, on leur indique que tu en as quand même pas mal parlé ces dernières semaines sur quelques exemples, quelques matchs en particulier dans l'hebdo, qui est l'émission que tu publies tous les lundis, je crois,
Ouais.
avec un intervenant différent. Vous avez trois intervenants différents, je crois, sur lesquels vous tournez, qui sont des gens qu'on adore, notamment FD qui est déjà passé dans Valley Hoop. Et tout ça pour dire qu'effectivement, donc c'est une émission où tu reviens en gros sur l'actualité chaude de la NBA, sur l'angle, enfin souvent en tout cas, de la tactique, et où tu as un peu parlé des Suns ces dernières semaines. Moi, ce que j'aimerais pour commencer, c'est peut-être que tu nous parles un peu de ta vision globale de Phoenix cette saison, peut-être avec un. un comparatif entre ce que tu attendais, ce que tu espérais, c'est pas forcément le bon mot, parce que c'est plutôt, voilà, on rappelle que t'es quand même un observateur assez, sinon objectif, au moins neutre de la NBA. T'es pas partisan d'une équipe, t'es plutôt fan de certains.
Je suis mercenaire, oui, tout à fait.
en tout cas, fan de certains joueurs, mais plus que d'une équipe en particulier, quoi. Et donc, du coup, ouais, l'idée, c'est la question. La première question qu'on va te poser, c'est plutôt, voilà, qu'est-ce que tu attendais au niveau du jeu pour Phoenix cette saison, compte tenu de ce qu'on avait en magasin, évidemment, et des tendances lourdes du côté de Vogel. Et qu'est-ce que tu as vu, c'est-à-dire ce que tu as vu correspond à ce que tu attendais ou pas, et pourquoi. Ce sera la première question de Kat Chiawar. Dis-moi tout. Enfin, dis-nous.
Je pense que déjà de base, je suis un peu moins chaud que peut-être la moyenne sur certaines réunions de superstars, parce que souvent il y a un peu je trouve ce biais parfois du talent pur qui est indéniable, mais ça fait pas toujours forcément une équipe. Donc c'est vrai que avant la saison, j'avais un peu cette interrogation de bon, ok, il y a les trois superstars, elles sont très fortes. En plus, mon profil particulier, on va en parler, mais j'avais un premier doute qui était par rapport à la profondeur de l'effectif, en fait, hein, qui est souvent un peu la problématique de ce genre de réunion de stars. Donc, c'était un gros point d'interrogation. Le deuxième, ça avait été le coup de bon, on échange Ayton, on fend son contrat en plusieurs petits contrats et donc plusieurs joueurs pour créer de la profondeur, mais quid des joueurs qui étaient un peu arrivés, l'état de santé de Nurkic ou d'autres joueurs comme ça. Donc, j'avais un peu ce premier aspect en termes d'attente. Avant saison, qui était à quel point est-ce qu'ils ont un effectif cohérent, et puis il y a l'autre, peut-être on va développer aussi, mais qui est le côté il n'y a pas de vrai meneur, quoi. En tout cas, c'est pas tant le côté meneur de jeu, c'est le côté vraiment initiateur principal d'attaque, créateur pick and roll, créateur un peu frontal qu'on retrouve dans pas mal d'équipes finalement. Donc il y avait un peu aussi ça, c'était un peu mes attentes, et je sais pas si tu veux que j'enchaîne directement sur qu'est-ce qui se passe vraiment depuis ou pas, ou je te laisse la parole, tu me dis.
Non, bah ouais, non, c'est bien d'enchaîner sur les deux, donc vas-y, continue.
Bah, je peux enchaîner alors, et du coup, c'est vrai que je suis agréablement surpris, très agréablement surpris, parce qu'il y a toujours un peu ce côté, comment dire, parfois, nous un peu les théoriciens du jeu, on est parfois un peu trop dans la théorie justement, et parfois on sous-estime peut-être un peu le talent pur, ou comment est-ce que ça peut marcher. Là, c'est vrai que je trouve que ça marche beaucoup mieux que ce que je pensais, en termes du fond de jeu que les Suns sont pour l'instant capables de développer, parce que en effet, il n'y a peut-être pas ce créateur principal et proactif, balle en main, qui peut vraiment faire la différence tout le temps. Par contre, c'est vrai qu'on est un peu, je trouve, hein, dans le scénario, dans le meilleur scénario possible, on a trois superstars un peu très polyvalentes, même, pas que un peu, mais très polyvalentes, on et off ball, et surtout, on a du lien autour, quoi. Et ça, pour moi, c'est la vraie surprise, c'est qu'on arrive à créer du lien autour pour qu'il y ait un vrai fond de jeu. Nurkic, évidemment, on pourrait y revenir dessus, le passing, la fluidité qu'apporte aussi Grayson Allen, etc. etc. Enfin, il y a plein d'éléments, et ce qui fait que, pour l'instant, moi, je trouve que on n'a pas vu encore tout le temps, toute la saison au complet, vous le savez, le trio ensemble. Mais les matchs où on l'a vu, j'étais agréablement surpris de à quel point, moi, mon inquiétude sur la théorie de « il n'y a pas de créateur principal », etc. Finalement, elle n'était pas un peu gommée et mise sous le tapis, cette théorie, parce que il y avait quand même la profondeur derrière et du fond de jeu développé autour qui était de très bon calibre, quoi.
Mais ouais, carrément, et là où c'est intéressant, et on va effectivement peut-être développer juste après, je vais consulter un peu mes deux acolytes sur ce point de vision globale, mais effectivement ça va être un point intéressant à une question intéressante à se poser, c'est qu'effectivement comment on fait les Suns pour développer ce fond de jeu sans, comme tu dis, porteur de balle, ne serait-ce que héliocentré, pour reprendre un peu la formule qui est en vogue depuis quelques années en NBA. Peut-être demander à Grégoire sur cette analyse d'ensemble. Toi, ça, est-ce que ça correspond un peu au sentiment qu'on a plus, nous, j'allais dire de l'intérieur, c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas en tant que suiveur accro aux Suns, on va dire, ou peut-être qu'on est un peu plus focalisé vraiment sur Phoenix, avec peut-être aussi justement un côté plus optimiste. Voilà, comment tu juges, toi, la différence entre ce qu'on attendait et ce qu'on voit?
Moi, j'avais attaqué la saison de manière... Je sais même plus si j'avais été optimiste ou pas. Il me semble que j'avais été optimiste, mais je n'avais pas été le plus optimiste de nous trois, Hicham étant toujours inatteignable dans ce rôle-là. mais je n'avais pas non plus été le plus pessimiste, parce que là-dessus, Rod, tu es toi aussi indépassable. Mais du coup,
Quand j'avais dit 51 victoires, on est
encore deux. C'est vrai que tu es d'ailleurs toujours dans les temps. Tu es toujours dans les temps. Et en fait, non, il me semble que j'avais misé sur le fait qu'il nous faudrait beaucoup de temps, que ça allait être une saison frustrante, et notamment sur le début de saison. Et puis assez tôt, il me semble, dans les pods, j'avais dit que ça allait être difficile de se préfigurer les chances et les espoirs de Phoenix cette saison avant le All-Star Break, voire même le début du mois de mars. On ne s'est pas trop trompé là-dessus, parce que finalement, on a été trois à le penser assez vite dans cette émission. Et puis, il y avait autre chose, c'était les blessures et la défense. C'était les deux craintes qu'on avait qui étaient principales. Et je me souviens que dans le pod de Malo, on interroge justement la présence de Bill en fonction de ses blessures, la défense de Nurkic dans la peinture, etc., etc. Petit à petit, sur les trois ou quatre mois de saison qui se sont déroulés, on a eu aussi des interrogations sur le manque d'harmonie et, comme l'a dit Guillaume, sur le fait que les role-players n'étaient pas tous forcément au niveau du trio de stars et pas forcément au niveau non plus du 5 majeur qui se présentait avec Bill, Booker, Allen, Durant et Nurkic. Donc en fait, on a jonglé d'interrogation en interrogation. Par contre, je pense aussi qu'on a été assez rapide, nous, de l'intérieur, je vais dire, puisqu'on regarde particulièrement les Suns, à dire que le besoin de ce meneur créateur pur où on espérait TJ McConnell, etc., ça a été une question qu'on a éludée un tout petit peu plus vite, peut-être pas complètement, parce qu'on en parle encore entre nous, ça nous arrive, Hicham a encore abordé le sujet l'autre jour sur la dernière place qui nous reste dans le roster, mais voilà, cette question nous paraît quand même relativement secondaire, peut-être parce qu'on avait plus confiance en Devin Booker sur ses qualités de playmaking, et aussi parce qu'on a découvert rapidement, vraiment, même très rapidement, que Grayson Allen et surtout Yusuf Nurkic allaient être fondamentaux de ce point de vue-là, quoi.
Ouais, dans la connexion notamment, et effectivement, on a beaucoup vu ça cette saison, et de plus en plus au fil de la saison d'ailleurs, le fait qu'il soit utilisé vraiment dans le jeu, parfois même en tant que porteur de balle sur certains systèmes et certaines actions. Pareil, c'est des éléments sur lesquels on va revenir juste après. Pour terminer peut-être ce tour de table introductif, toi Hicham, comment tu juges ce que proposent les Suns à l'aune de ce que tu attendais globalement, effectivement, et de ton optimisme j'allais dire forcené, mais en tout cas.
Ah, je suis éternel optimiste, ouais, c'est sûr.
Éternel, en tout cas, oui, c'est ça.
C'est sûr. Bon, j'ai toujours été comme ça parce que forcément, c'est mon équipe de cœur, je veux l'avoir bien faire. Et je ne compte pas le nombre de fois que j'ai pu avoir des œillères et pas regarder la réalité en face. Ça m'est arrivé, j'espère, de moins en moins souvent avec les années. Essayer d'être un petit peu plus, entre guillemets, objectif. Pour ce que ça veut dire, en tout cas pour moi. Donc, par rapport aux attentes globales en termes de, alors plus précisément, comme ça, je vais pas partir sur du hors sujet. Sur quel thème précis tu voudrais que...
Peut-être pour rentrer un peu dans le vif du sujet, justement sur le jeu de l'équipe et sur la, ouais, sur la dimension collective de la création, peut-être.
Alors, sur le jeu de l'équipe, d'une manière générale, désagréablement surpris par notre incapacité à jouer un peu sa vie. Je sais pas comment traduire le mot en français, toi qui es si bon pour ça. J'ai un petit peu du mal.
C'est dangereux de jouer sa vie, hein.
Ouais, c'est clair, en un seul mot, les gars.
Donc, effectivement, sa vie, sa vinesse en anglais. Ouais, c'est difficile à traduire en plus. Enfin, c'est quoi? C'est
en sûr, quoi, de jouer un peu sûr, un peu sécuritaire. J'ai du mal à comprendre comment notre équipe a une pace qui est loin de celle que j'espérais en début de saison, même si depuis des années on n'est pas une équipe particulièrement haute en termes de pace. On est dans le ventre mou, je crois, maintenant, après un début de saison plus laborieux de ce côté-là. Pour moi, cette équipe, elle doit jouer avec de la pace pour bien jouer, vu ses forces, vu les forces en présence, force offensive. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment la pace, même si depuis voilà, un mois et demi, ça va mieux de ce côté-là. Et en même temps, on perd tous ces ballons. Hein. C'était le thème récurrent depuis le début de saison. Et c'est les deux aspects sur lesquels je suis le plus désagréablement surpris depuis le début de saison par rapport à notre équipe. C'est à la fois ce manque de pace d'une manière générale depuis le début de saison et ce turnover rate qui est bien trop élevé. Et ça ne matche pas les deux. Quoi. C'est bizarre. On sait à peu près à quoi c'est dû, peut-être, le manque de meneur, on va dire, de métier qui est capable de préserver le ballon. Voilà, il y a tout un tas de raisons peut-être à ça, et d'ailleurs Guillaume sera certainement très bien placé pour en parler, mieux que moi en tout cas. Mais voilà, c'est les deux aspects qui, moi, me dérangent le plus depuis le début de saison.
Et c'est peut-être lié justement effectivement à cette organisation un peu hybride, parce qu'il y a quand même des porteurs de balles principaux, mais qu'effectivement l'idée est que le danger et la création peuvent venir un peu de n'importe où. On va commencer d'ailleurs à se pencher un peu sur ça et s'intéresser vraiment à comment fonctionne cette attaque des Suns cette saison. Et je vais te redonner la parole, Guillaume, sur ce thème-là, sachant qu'effectivement, on s'attendait, on en avait parlé, nous, dans un épisode d'avant-saison, effectivement, un Booker qui soit le porteur de balle principal, mais à ce qu'il y ait quand même une multiplicité justement, des solutions sur le playmaking, et aussi, comment dire, une versatilité des rôles, on va dire, dans la création offensive, sans être complètement dans ce basket total là qu'on espérait totalement en début de saison, basket total qu'on espérait totalement, mais donc sans en être arrivé complètement là, bah c'est quand même un peu la direction qu'a pris cette équipe là depuis le début. Toi, comment tu juges, enfin voilà, comment tu décrirais un peu le fonctionnement des Suns en termes de création offensive cette saison?
Bah justement, je trouve qu'il y a un plutôt bon équilibre pour le coup, même si on n'est pas sur, comment dire, effectivement, on n'est pas sur les motion offense complètement de, je sais pas moi, les grands Warriors ou les grands Spurs ou des trucs comme ça. Ça, c'est peut-être le, comme tu dis, l'espoir que tu pouvais avoir avec les profils très polyvalents, mais c'est aussi un truc que je retenais, moi, que en tout cas, avant saison, c'est ça vient pas d'un coup, ça. Ça vient pas d'un coup. Donc voilà, c'est pas non plus une des meilleures, un des meilleurs collectifs fond de jeu, ça part dans tous les sens qu'on a pu connaître. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que on a des schémas très très divers justement et qui s'appuient sur précisément cette polyvalence qu'ont les joueurs. Parce que on a parlé un peu du côté meneur de jeu. Moi, c'est pas tant le côté meneur de jeu un peu gestionnaire, annoncer les systèmes et tout, remonter la balle. Ça, on sait qu'en NBA aujourd'hui en 2024, on s'en fiche un peu. Le jeu a évolué, on a plus trop besoin. Moi, c'était plutôt le côté manque, comme tu dis, hein, le côté héliocentrique de est-ce qu'on a une star qui est capable de créer? Et ça, voilà, ça, on ne l'a pas totalement. Mais par contre, c'est vrai qu'on a un système de jeu qui est bien développé avec, en s'appuyant sur la fameuse polyvalence de ces trois joueurs. Parce que Booker, il peut jouer avec la balle et sans la balle, il est extrêmement bon, évidemment. Bradley Beal, c'est un peu pareil. Et Kevin Durant, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'aucun des trois ne peut jouer ce rôle héliocentrique. Mais par contre, bah, comparé à un Luka Doncic, à un James Harden ou même Chris Paul dans une certaine mesure, ou des LeBron James, je sais pas quoi, bah ouais, ils sont quand même beaucoup mieux sans ballon. Et je trouve que donc, on n'est pas sur, on va dire, un fond de jeu Warriors grande époque, etc. Par contre, tu vois, si je devais mettre un peu les Suns sur une échelle entre Warriors collectif magnifique d'un côté, une extrême, et de l'autre, peut-être un peu plus, tu vois, les Clippers qui sont un peu une attaque juste de match-up. Juste, on fait le pick and roll pour cibler tel match-up, on fait une isolation, on fait le post-up pour aller appeler ceci ou cela, mais il y a très peu de mouvement. Je pense que les Suns sont quand même beaucoup mieux et sont un peu entre les deux, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais un peu tout de même ce fond de jeu, cette diversité tactique qui est développée. Mais aussi tout de même, bah, voilà, tu as quand même trois talents qui, juste parfois, bah, tu les mets en position et ça va, quoi. Donc, tu n'auras pas non plus Durant ou Booker ou Bill qui vont faire 3000 mouvements ou avoir des automatismes collectifs que peuvent avoir les Warriors ou les Spurs de la grande époque ou ce genre de trucs. Mais tu as quand même des schémas très bien développés, très différemment, de la part de Frank Vogel, qui, je trouve, montre plutôt de très bonnes choses. Il y a pas mal de séquences. Bon, ben voilà, pick and roll un peu classique. Tu as des séquences aussi de sortie d'écran, évidemment, avec Bill, Booker ou Kevin Durant, donc un peu des simples sorties d'écran, hein, des pin-down, des trucs comme ça. Tu as aussi des systèmes un peu à l'ancienne, remasterisés à la sauce 2024, donc avant, tu avais l'écran qui était au niveau de la raquette, maintenant il est aux 3 points. Enfin, je trouve qu'il y a une bonne... Il arrive plutôt bien à utiliser un peu la dangerosité de l'un pour servir l'autre, pardon, c'est-à-dire t'as Booker qui fait une sortie d'écran, il prend deux écrans côté faible, et côté fort, t'as un pick and roll, Bradley Beal, Kevin Durant, tu vois, ce genre de choses. Et puis l'autre option aussi, et je peux vous laisser parler aussi là-dessus, c'est l'émergence, mine de rien, de Nurkic, qui est là aussi en point center, je dirais pas ça non plus, mais qui a une place très importante en tant que pivot, qui prend des décisions, en fait, hein, décisionnaire, sur des dribble end-off, sur des passes en tête de raquette, sur la high post, même parfois au poste bas. Et ça, ça change tout aussi parce que ça permet aussi de développer un autre fond de jeu quand bah, c'est lui qui a la balle et que des gens viennent lui tourner autour, en fait.
Ouais, c'est vrai qu'on a, en fait, on a vu dès le début ce type de situation-là, avec bah, ça correspond un peu à ce que tu disais, c'est-à-dire des automatismes qui étaient à trouver, donc des manques de justesse parfois sur certaines courses, sur certains timings dans la passe ou même justement dans la course en elle-même. Et petit à petit, c'est vraiment devenu une marque de fabrique du jeu des Suns. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce point en particulier? On va te donner la balle, Greg, sur cette question-là, parce que c'est vrai que c'est très intéressant, quoi. On attendait à ce qu'il se passe des choses, mais en fait, ce qui se passe autour de Nurkic débloque beaucoup de choses dans le jeu de l'équipe. Enfin, c'est un peu confus en disant comme ça. Peut-être que tu vas le délayer un peu, Greg.
En fait, ouais, la présence de Nurkic nous permet d'avoir une sorte d'augmentation du playmaking au-delà des rôles qui sont, disons, collés comme des étiquettes aux joueurs qui sont sur le terrain parce qu'ils sont dans le back court ou parce qu'ils sont dans le front court. On s'imaginait avoir Durant en finition en ISO dans sa zone de préférentielle et c'est finalement... disons la caricature ou en tout cas le dessin le plus forcé qu'on a le plus cette saison, c'est effectivement Kevin Durant qui dans sa zone préférentielle sur la gauche de la raquette prend des shoots en turnaround fadeaway. Ça on l'a X fois par match, ça rentre avec une adresse folle mis à part depuis les deux derniers matchs, mais sinon ça rentre à un niveau extrêmement haut. Mais mis à part ça, on a effectivement trois joueurs sur le terrain minimum, parce que Kevin Durant a aussi des élans de playmaking, et notamment depuis une série de 10 matchs au playmaking défensif. Mais on a effectivement des moteurs offensifs, Booker, Beal et Nurkic, qui sont très à l'aise avec la construction off-ball et on-ball. Et pour relancer d'une bille ce que disait Guillaume, il y a effectivement, moi j'aime beaucoup ces écrans qui sont posés très très haut, même encore plus haut que la ligne des 3 points, alors que le porteur de balle est presque encore en train de passer la ligne médiane. On a un premier écran avec un premier pick and roll et souvent un premier switch, sauf si la défense choisit de ne pas switcher. On a des premiers positionnements de choix de match-up parce qu'il se passe toujours un ou deux autres écrans dans le coin. Et puis ensuite, on peut avoir soit Nurkic qui pose un deuxième écran pour quelqu'un qui fait une sorte de Iverson cut entre le porteur de balle et Nurkic, soit qui passe derrière Nurkic dans la peinture et qui ensuite ressort pour prendre un 3 points. Et c'est souvent Grayson Allen, mais ça peut aussi être Bradley Beal ou Devin Booker en fonction de qui porte la balle. Et déjà, rien que sur ces petits posages d'écran de rien du tout, on a 4, 5, 6 systèmes qui sont possibles avec des itérations de finition qui sont extrêmement nombreuses. C'est ce qu'avait montré David, The Four Point Play, qui est un de nos observateurs particuliers du côté des Suns et qui décortique ce que fait l'équipe sur le terrain d'un point de vue tactique avec minutie sur Twitter. Et c'est très agréable de l'avoir dans notre fanbase. Et il avait appelé ça l'octopus, on en avait déjà parlé dans ce podcast. Hein. Mais ça, c'est vraiment très, très agréable parce qu'on l'a vu très tôt dans la saison et on a compris que Frank Vogel avait des idées très fortes. Et on en discutait encore aujourd'hui dans la conversation privée qu'on a sur Twitter. Mais en fait, ce casting de Yusuf Nurkic, il est incroyablement bien senti. Il est beaucoup mieux senti que nous-mêmes, pauvres observateurs twitteriens, avec au mieux un abonnement Cleaning the Glass, n'aurions pu présager. Et en fait, ça fait vraiment, vraiment très plaisir. Et si vous vous souvenez, on avait aussi parlé d'un truc en début de saison qui était cette espèce de truc qu'on appelait le basketball total ou le total basketball, un peu dans la lignée de ce que faisait Johan Cruyff avec la Hollande et que Ted Lasso a remis au goût du jour dans la série, qui est en fait qu'on se retrouve avec beaucoup de monde qui peuvent passer la balle et prendre des décisions et aussi beaucoup de monde qui pose les écrans. On commence à voir des écrans Booker Durant, on commence à voir des jeux d'écran Bill Booker que moi j'adore. Josh Okogie a fait aussi beaucoup de screenplay quand il était aligné en 3 avec Grayson Allen. Tout le monde pose des écrans, tout le monde prend des décisions et fait des passes. Du coup, moi, je trouve que pour les défenses adverses, c'est quand même un sacré casse-tête de s'adapter à des équations où tout le monde est une inconnue. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si la personne va pull-up, si la personne va driver, s'il va y avoir un kick-out, si finalement, il y aura un écran, une passe et on va relancer un système, etc. C'est, en fait, c'est infernal, quoi. C'est, et moi, j'adore ça. Alors, pour le coup, j'adore. Je trouve que c'est un jeu, effectivement, comme disait Guillaume, qui se situe entre un jeu collectif et puis un jeu d'isolation basé sur le talent pur. Donc, je trouve que Vogel et son coaching staff ont trouvé un bon curseur, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on développe quand on est tous en santé et avec ce 5 majeur que j'ai cité préalablement.
Ouais, après, c'est vrai que sur certaines séquences, on n'a même pas besoin, justement, que tout le monde soit là. On a vu là, ouais, notamment sur le premier carton contre les Lakers, une très très bonne circulation de balles et effectivement ces principes de jeu là vraiment vraiment mis en œuvre. Et oui, on en est, encore une fois, on est pas encore au bout du compte là-dessus, mais c'est vrai que ça se met en place et plutôt de manière positive. Toi, qu'est-ce que tu as à dire sur cette organisation collective, Hicham? Voilà, est-ce que t'es satisfait du fait que justement du côté des Suns cette multiplicité des menaces soit devenue une réalité au fil de la saison?
Ouais, cette multiplicité des menaces, c'est sûr, c'est une bonne chose. Moi, je trouve qu'on n'est jamais aussi bon que quand on arrive à vite casser le pressing que Booker aime bien appeler la junk defense. Donc, quand ça envoie des prises à deux, parfois même trois, sur le Booker ou Durant, moins Bill parce qu'il a moins joué, mais aussi il a ce statut qui fait que les défenses adverses en fait tentent le pari de casser l'attaque des Suns dans l'œuf en faisant des pressings très hauts avec les pivots qui couvrent, les ailiers qui viennent prêter main forte carrément sur le porteur de balle, parfois pas en étant genre semi-menace sur le couloir de passe et en même temps pour essayer de limiter les driving lanes, mais c'est vraiment grosse pression, gros pressing. Et du coup, quand on arrive à casser ça vite, c'est là qu'on devient très bon. C'est là qu'on devient très bon quand on arrive à mettre le ballon au centre du jeu, au niveau du nail, comme disaient les Américains, quoi, au niveau de la ligne des lancers francs, les deux petits coins là. Quand on arrive à vite tenir le ballon dans cette zone de jeu, soit Nurkic ou éventuellement voilà, un autre joueur qui se démarque à la suite d'un ou deux écrans et reçoit la balle dans une bonne position sans défenseur à proximité, on arrive à faire des belles choses, à faire de l'inside out, voilà, de l'attaque de close out, kick out. Bref, toute une batterie, tout le jeu des Suns commence à se développer. La beauté du jeu des Suns commence à apparaître quand on arrive dans les 5 premières secondes, 8 premières secondes dans la moitié de terrain adverse à créer ce décalage. Et donc, à casser cette stratégie adverse qui consiste à casser le truc dans l'œuf. Quand on n'y arrive pas, ça donne les turnovers, les fast break points, les points of turnovers, etc., où bon, on est assez cata et on prend des pions sur pions faciles pour l'adversaire, hein. C'est des live turnovers souvent où voilà, ils n'ont plus qu'à aller au cercle, et puis en plus on a tendance parfois à regarder le truc se passer en étant fataliste, quoi, en se disant bon, bref, ça sert à rien de revenir, alors que non, même montrer l'effort, ça peut être une bonne chose pour j'allais dire le moral de l'équipe d'une manière générale. Mais voilà, donc c'est un peu qui tout double pour l'adversaire. Il tente cette stratégie pour obliger les role-players à être vraiment les acteurs du jeu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en termes de role-players autour des stars, il y a 3-4 joueurs qui sont en capacité d'apporter ces décalages et ces points dont l'équipe a besoin pour justement casser la stratégie adverse. On voit que tous nos adversaires usent de la même stratégie match après match. C'est du copier-coller. Et du coup voilà, ça repose après sur les role players effectivement d'arriver à être ces créateurs de jeu d'une manière générale, mais avec des joueurs comme Nurkic, maintenant Royce O'Neal, peut-être bientôt un peu Thaddeus Young aussi, à voir. Il va peut-être y avoir de plus en plus cette capacité à punir l'adversaire, d'user et de surabuser de cette stratégie qui consiste à complètement essayer de castrer Booker et Durant dans l'initiation du jeu, quoi.
Il y a beaucoup de choses évidemment qui dépendent de ça dans les stratégies défensives adverses. On a vu que c'est quelque chose qui a quand même été très très souvent mis en place. En fait, là où il y a plein de choses qui me passent dans la tête, je pourrais pas interroger Guillaume sur tout à la fois. Mais alors peut-être, enfin voilà, le dernier truc auquel j'ai pensé là sur ton intervention, Hichem, ça renvoie un peu au questionnement que toi tu as souvent dans le Basket Lab, Guillaume, au sujet et notamment dans les émissions avec notre copain Tom de Dunk Hebdo sur la question de qui crée le décalage, qui est capable de le prolonger derrière,
Ouais.
à quel point tu as besoin de ça dans ton effectif, toi, comment tu vois la répartition de ces rôles-là du côté des Suns, et voilà, comment tu juges un peu cet aspect-là, on va dire, du jeu.
Bah, je pense que pour le coup, comme dit, on n'a pas affaire à trois créateurs majeurs, mais par contre, bah, ça reste des stars à un moment qui peuvent le faire. Et surtout, là où c'est intéressant et c'est important, comme tu dis, c'est pas tant la création du décalage, parce que ça, ils sont tellement dangereux que le petit décalage, tu peux le créer de plein de manières différentes. Tu peux, d'ailleurs, Booker sur pick and roll est assez impressionnant, dans ce rôle un peu proactif. Mais voilà, c'est peut-être celui qui s'en rapproche le plus, mais il peut le faire aussi sans ballon, on l'a dit, Bradley Beal, pareil, Kevin Durant, évidemment. Donc il y a plein de manières de créer le décalage, mais surtout, ce qui est pour moi assez primordial, c'est les connecteurs que tu as autour, quoi. C'est-à-dire que n'importe quel décalage que tu as, bah, il va pas mourir, il va vivre, il va être amplifié parce que bah, déjà, on a Grayson Allen qui est excellent pour ça, c'est-à-dire que quand il y a un renversement du jeu, bah, parce que voilà, sur une défense de pick and roll, se resserre autour de Booker ou Durant ou Bill, bah, il y a un peu d'espace côté faible et ça revient sur lui. Et Grayson Allen, c'est un des meilleurs de NBA, enfin en tout cas, il est très bon dans les standards NBA pour attaquer le close-out et surtout faire la passe en mouvement après ça. Donc ça, c'est un peu un élément crucial. Royce O'Neal, peut-être, je sais pas si vous voulez en reparler, mais Royce O'Neal est aussi très bon là-dessus. Hein. C'est pas... Royce O'Neal est beaucoup plus passeur et beaucoup plus passeur intelligent en mouvement que le 3D typique de NBA. Hein. C'est voilà, c'est pas Dorian Finney-Smith, hein, comme je dis parfois. Il sait faire des trucs avec la balle. Mais voilà, il y a plein de petits joueurs comme ça, finalement. Mais tu vois, même Josh Okogie, je sais plus qui c'est qu'en parlait au niveau de la pose d'écran, mais lui aussi, hein, je trouve que le jeu sans ballon et le connecting justement est très bon. Donc il y a un peu toute cette batterie, je trouve, hein, de joueurs qui sont là pour faire que ben ouais, les décalages que tu crées, ils peuvent vivre. Et le point principal aussi pour moi, c'est Nurkic. Parce que la capacité de Nurkic d'évoluer dans ce qu'on appelle le short roll, donc pas de plonger dans le pick and roll, pas plonger le roll, ROLL, jusqu'au panier pour un layup, mais s'arrêter un peu avant dans l'entrejeu, on va dire. Bah, la capacité de Nurkic d'évoluer dans ce short roll un peu après le pick and roll, il reçoit la passe et il peut opérer, c'est primordial pour moi parce que avec des porteurs de balles comme ça qui ont le pull-up à 3 points, les défenses vont avoir envie de monter pour pas laisser le pull-up à 3 points ouvert, forcément, voire même, comme c'est pas non plus des basseurs à la Luka Doncic ou autre, bah, ils vont peut-être parfois même monter encore plus haut et mettre de la pression sur Bradley Beal ou sur Booker par exemple, et donc bah, et eux, ils ont peut-être pas la passe pour la qualité de passe pour tout le temps faire la passe magique que Doncic peut faire ou que LeBron peut faire, ok. Mais par contre, l'élément clé là-dedans, c'est que bah, ça fait un décalage parce que la défense se découvre, elle met la pression sur Booker, et derrière, bah, t'as Nurkic en fait. Et ça n'a l'air de rien. Mais le fait qu'il puisse prendre la balle, dribbler, poser un dribble, et prendre de bonnes décisions en sortie de ce short roll, comme dit, bah, c'est pour moi, c'est primordial. Et c'est ce qui fait que souvent, t'as le premier décalage, comme tu dis, qui est le pick and roll, la sortie d'écran. Ensuite, Nurkic qui vient l'amplifier, et puis parfois, bah, il ressort vers Grayson Allen qui l'amplifie encore et qui le fait vivre, ça fait tourner, et puis voilà, on en a parlé dans une hebdo récente, là, le match contre Dallas en prime time, bon, ils ont perdu, mais on a dit beaucoup de bien, parce que pour moi, il y a des séquences de jeu qui sont vraiment épatantes, et que je m'attendais pas forcément à voir ça dès la saison numéro 1, en fait. Donc c'est là-dessus où on rejoint aussi ce qu'on dit au début sur le côté profondeur d'effectif, la polyvalence des profils et donc tout s'embrique au final avec ses créateurs et ses amplificateurs de décalage en fait.
Ouais, tout à fait, c'est très intéressant. Bah, c'était limpide là comme explication. Donc deux auditeurs, je pense, vont voir ça comme du petit lait, parce qu'effectivement, oui, il y a vraiment cette dimension là un peu à trois niveaux, c'est-à-dire que le décalage est créé par le porteur de balle principal, que ce soit quel que soit des trois. Amplifié, comme tu le dis, un peu par Nurkic et par sa bonne lecture, notamment sur ses short rolls, et derrière, effectivement, poussé jusqu'au bout, on va dire, par le bout de chaîne, qui peut d'ailleurs aussi être une de nos stars, ce qui est très intéressant, puisqu'on sait que sur tout ce qui est catch and shoot, ils ont plutôt des bonnes stats, évidemment. C'est des joueurs de bon talent, hein. Ça fait partie du package.
Ouais, et puis Ayton, tu ne savais pas faire ça, hein, pour le coup.
Non, clairement,
il l'avait pas, quoi.
Ah, complètement, là, c'est vraiment le jour et la nuit. Et oui, ça rejoint l'idée qu'évoquait Greg tout à l'heure, qu'en fait, c'était bien anticipé de la part du front office, dans le sens où on avait besoin d'un profil comme ça à l'intérieur, en fait, qui, en fait, qu'on avait, hein, avec Saric à une époque. Je ne sais pas si tu te souviens du très bon passage de Dario Saric à Phoenix après sa blessure en 2021, où il avait vraiment ce rôle-là. Il a été titulaire à un moment. Avec Ayton, il est ensuite passé backup 5, avec vraiment ce rôle-là de hub offensif, souvent au poste haut, donc vraiment dans un rôle assez proche finalement de ce que fait Nurkic, dans un style de jeu qui était très, très différent et plus orienté autour d'un porteur de balle principal, pardon, qui était Chris Paul. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir comment tout ça fonctionne. Est-ce que, messieurs, vous avez quelque chose, Greg et Hicham, à ajouter sur l'attaque d'un point de vue global? On reviendra peut-être un peu plus en détail sur certains joueurs après.
Ouais, moi, un petit truc. Excuse-moi, Greg, c'était un truc à ajouter aussi. Je prends la parole vite fait pour dire que j'ai aussi, on va dire, un regret, malheureusement, par la force des choses. Bah, Booker, comme l'a dit Guillaume, se retrouve forcément primary creator, en gros, à devoir organiser un petit peu le jeu de l'équipe en tant que porteur de balle principal. Et on se rend compte que les shoots qu'il prend, il sait les créer beaucoup tout seul. C'est malheureusement, à mon sens, un peu trop rare qu'il se retrouve à la fin d'une action, d'un jeu collectif qui lui offre vraiment des shoots ouverts. Je ne sais pas si vous avez cette impression, moi j'ai cette impression en tout cas, que Booker, il est toujours sous pression quand il doit prendre des shoots. Et quand il est libre, de temps en temps, mais un peu trop rarement, malheureusement, à mon goût, ça rentre comme dans du beurre, quoi, quand il a un peu l'espace pour shooter tranquillement, que ce soit à mi-distance, à 3 points, ou au cercle, évidemment, il est easy, quoi. Mais il a tellement la pression, parce que ses shoots, à lui, il se les crée tout le temps, et qu'il est obligé de créer aussi beaucoup donc, pour les autres. C'est le regret que j'ai par rapport à cette attaque, c'est que on n'a pas Booker en mode scoreur nucléaire, quoi. Bon, pas tout avoir. C'est le rôle qui lui a été confié dès le début de saison, et bon, il l'a embrassé, et voilà, il fait tout ce qu'il peut pour l'équipe, et il joue pas pour sa pomme. C'est vraiment un leader dans ce sens-là, c'est que c'est pas un mec qui donne l'impression de placer son ego avant l'équipe, depuis sa saison rookie, on voit ça. Et c'est cool, mais malheureusement, on n'a pas assez... de par ses schémas de jeu, on n'a pas assez droit à voir Booker shooter un petit peu plus en sortie de système, en bout de chaîne, quelque chose qui est fait pour lui, mais pour qu'il soit vraiment plus libre de s'exprimer en attaque. Il ne peut pas être au four et au moulin, en gros.
C'est
ça. Il est au four, et moi, j'aurais tellement aimé le voir au moulin. J'adorerais tellement que Booker soit notre shooting guard. Et même si Guillaume disait à juste titre tout à l'heure que dans la NBA moderne, il n'y a plus ses rôles, et c'est vrai, de point guard, de shooting guard, etc. Et que les frontières sont de plus en plus floues. On voit des point forward et des point center dans tous les sens. Et puis voilà, le jeu change. Mais malgré tout, j'aimerais bien quelque part un petit retour par séquence à la tradition, j'ai envie de dire, et voilà. Donc je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, Guillaume et Greg, dites-moi ce que vous en pensez, les gars, de ça spécifiquement.
Ah, moi j'allais rebondir sur ce que tu disais, parce que je suis totalement d'accord, mais je pense que l'explication vient du fait que Bill a été pas mal absent, et que de fait on se retrouve avec Bradley Bill qui a beaucoup moins d'harmonie dans le jeu, beaucoup moins de connexion et d'automatisme avec les autres connecteurs, et notamment avec Yusuf Nurkic, mais aussi avec Grayson Allen, son placement sur le terrain, et Kevin Durant, son placement sur le terrain aussi. Et de fait, si tu veux, quand Bradley Beal décide de lancer une attaque et d'être en autorité sur le playmaking, peut-être qu'il y a moins de... Tu vois, il y a un peu plus de déchets, il y a un peu plus de d'iso aussi, parce que c'est un joueur qui est capable de lancer un set, mais de s'en servir à des fins personnelles, et en plus de sanctionner. Parce que Bradley Beal reste quand même un attaquant élite, ou en tout cas très fort. et avec un vrai potentiel, et c'est pour ça qu'il a été ramené. Donc je pense que c'est juste pour cette raison-là. C'est vrai qu'on a vraiment pour le coup des grosses absences de Bradley Beal dans le temps. Il n'est pas juste absent un match de temps en temps, il est absent sur des grosses séquences, et des séquences en plus qui sont importantes, sur lesquelles on a besoin qu'il soit là pour... justement aider, là en ce moment on a par exemple Kevin Durant qui a des petits problèmes d'adresse, franchement Bradley Beal ça dépannerait vraiment beaucoup très fort et ça seconderait Devin Booker. Donc oui, moi je suis d'accord avec toi sur le constat, je glisse juste l'explication que j'ai en tête et qui est pour moi le manque d'automatisme de Bradley Beal avec le reste de l'équipe à ce stade de la saison. J'espère que d'ici à l'arrivée en playoff, sur les 15, 20 ou 22 matchs qui restent, je ne sais plus, on aura la place de les voir se construire suffisamment fortement et suffisamment profondément pour que ce soit efficace en playoff.
Juste un mot sur Chris Paul, effectivement, quand on parle d'évolution de jeu et du rôle de meneur, bon, ben voilà, Chris Paul, c'est aussi le dernier héritier d'une lignée et d'une façon de faire. Et ben ouais, Devin Booker, quand t'as plus Chris Paul à côté, qui est le meneur de jeu, le gestionnaire parfait par définition, qui était là un peu le fameux jeu de Monty Williams, hein, le jeu des systèmes avec options, toute la science de Chris Paul. Ben forcément, comme tu dis, en fait, ben ouais, Devin Booker n'est plus là pour faire la pure finition avec Chris Paul à la baguette, quoi. Et peut-être c'est ça qui manque parfois, comme tu dis, et je te rejoins là-dessus, par séquence on pourrait le voir. Mais pour l'instant, comme dit, ben ouais, peut-être avec les blessures, il est aussi plus concentré sur un autre rôle que ce qu'il a pu avoir par le passé, où il était diablement efficace aussi, quoi.
Ouais, et puis ça dépend, effectivement, hein, comme on y revient, hein, c'est une question de construction d'effectifs aussi, et cet effectif a été construit vraiment autour de l'idée que ce serait le porteur de balle principal, malgré le fait que, voilà, on y revient, on va le dire toute l'émission, mais voilà, c'est pas un fonctionnement héliocentrique, et que donc, de par là même, évidemment, il allait perdre un peu en ticket shoot en sortie d'écran, en sortie de système, pardon, enfin en fin de système, mais néanmoins, et on en avait d'ailleurs parlé dans l'émission précédente, il a quand même réussi à trouver son efficacité au tir cette saison, donc c'est quand même très intéressant de se dire qu'il n'a pas du tout le même régime de tir que les années précédentes et que pourtant il est quasiment aussi efficace, voire plus efficace que certaines saisons où il a été avec Chris Paul. Donc c'est vraiment, pour fermer peut-être la parenthèse Booker, c'est vraiment très, très encourageant malgré tout dans l'évolution du joueur de voir qu'il arrive un peu à mener les deux de front.
Et dernière petite chose, et je te laisse enchaîner, mais on se rappelle que dans notre FC Soleil favori, il y a eu cette grille là de basketball référence, il me semble, ou basketball index, pardon, où on voit en abscisse les pourcentages de shoot et en ordonnée la difficulté de shoot, ou peut-être l'inverse, mais bon, bref, le parallèle qu'il peut y avoir entre les deux. Et on a et Booker et Durant qui font partie du top en termes de capacité à fortement réussir leur shoot, hein, avoir des gros pourcentages, en ayant les shoots les plus difficiles, en fait, dans toute la ligue. C'est une bonne chose par rapport à l'optique des playoffs de se dire, ouais, on a deux gars capables de rentrer des shoots difficiles, des tough shot makers, mais on aimerait bien qu'il y ait plus de open shots aussi, ça ferait plaisir, donc ils en sont capables, mais voilà, après ça use. On a vu l'année dernière avec Durant en playoff, on a eu l'impression qu'il arrivait un petit peu à bout de souffle moment des playoffs, et puis Aaron Gordon lui a sérieusement mis la pression défensivement, mais j'espère que le même scénario va pas se répéter, et qu'on a, même si Booker avait été exceptionnel, mais voilà, j'espère que les deux vont arriver à garder aussi leur énergie et à pas être constamment dans l'obligation de rentrer des tough shots, quoi. Voilà, donc juste pour parler de cette petite stat qui nous a fait plaisir.
Ça ouvre d'autres questionnements, effectivement, dont on parlera peut-être un tout petit peu plus tard dans l'émission. Messieurs, on va faire une toute petite pause, histoire de respirer un petit peu, et puis on va passer à l'autre côté du terrain et s'intéresser un peu à ce qu'on voit côté défensif. On est de retour dans Valley Hoop et on va, après avoir examiné un peu en détail l'attaque des Suns et son fonctionnement cette saison, se pencher de l'autre côté du terrain et aller voir un peu comment ça se passe en défense. Voilà, on savait évidemment que du côté des Suns, ce serait pas le point fort, l'atout, l'atout majeur à cette saison. Néanmoins, et là aussi, tu vas me dire ce que t'en penses, Guillaume, il y a peut-être plus de... comment dire, plus de résultats qu'attendus, en tout cas plus de manières qu'attendues, peut-être même plus que de résultats, dans le sens où, et tu vas me dire si t'es d'accord, hein, mais on a réussi peut-être à trouver au fil de la saison une organisation défensive qui est assez performante. Enfin voilà, moi j'ai souvenir de grosses grosses difficultés pour les Suns pour contrer les adversaires en début de saison. Plus récemment là dans les dernières semaines, de grosses séquences, de gros runs où on a vraiment réussi à étouffer des adversaires. Alors ça dépend aussi évidemment de qui il y a en face. Mais bon, on peut poser une question de manière ouverte. Comment tu juges toi la défense de Phoenix cette saison d'une manière générale, Guillaume?
Eh bien, je pense que pour l'instant c'est assez bon. C'est assez bon pour en faire un peu des contenders, mais c'est vrai que pour l'instant on est à peine dans la moyenne NBA, hein. Finalement on a une attaque qui est très bonne et une défense qui est 14e sur 30, là j'ai sur Killing the Glass au moment où on enregistre, pardon. Mais c'est vrai qu'on pour le coup on peut en revenir à ce qu'on disait, en tout cas aux attentes de début de saison. Moi, Nurkic, pour moi, ça avait surtout été un pivot défensif, en fait. Les Zena Portland, et même s'il avait un peu cette image de joueur au poste bas, etc., en fait, dans son prime, ça avait surtout été un pivot défensif, un rock défensif de la défense d'élite de Terry Stotts à Portland, avec le drop défensif, la protection du panier très sous-estimée, etc. Et finalement, donc je m'attendais un peu à ça. Et sauf qu'en fait, on a vu totalement l'inverse, c'est-à-dire ben, en attaque, on l'a développé, mais plus de liberté, plus de spacing et les lectures qu'il est capable de faire et le jeu qu'on est capable d'organiser autour de lui. Donc finalement, on a un Nurkic offensif plus que défensif. Et de l'autre côté, ben ouais, après, c'est quoi, c'est il y a 5 ans, 4 ans maintenant, sa blessure en 2019, assez grave. Et puis il a toujours eu des. Ça. C'est ça, ouais, juste avant la play-off 2019.
Revient, et c'est ça, il revient dans la bulle en fait en 2020.
C'est ça, ouais. Et il ne fait pas le run en finale de conf.
C'est ça.
Mais voilà.
Et Ness
il est quand même blessé depuis quelques saisons, c'est pas que cette blessure en plus, donc je pense qu'il a pas mal perdu en mobilité, et donc finalement je m'attendais à un Nurkic défensif, on a un Nurkic offensif. Le truc c'est que pour l'instant il y a un peu, bon, c'est un joueur à compromis du coup, parce qu'on n'a plus le protecteur de panier qu'on pouvait avoir avant, on n'a plus ce joueur de drop un peu dominant dans les schémas de Terry Stotts qui avait fait des scores défensifs un peu d'élite autour de lui. Ça, on l'a plus. On l'a plus, et du coup, on a une défense qui, bah, du coup, qui est un peu moyenne parce que le rôle de pivot défensif est à ce point important, évidemment, dans une défense. On a une défense qui est 14e au général, 13e au niveau du demi-terrain, pour le coup. Donc, voilà, on est dans les mêmes eaux, précisément sur le demi-terrain. Et surtout, on a aussi une équipe qui, je trouve, autorise pas mal de tirs au panier parce que, voilà, c'est quelqu'un qui peut aussi être ciblé sur pick and roll, ou en tout cas attaqué sur pick and roll. Ça, c'est un peu pour le côté mauvais, ou en tout cas un peu nuancé, on va dire. Après, je trouve qu'il y a aussi d'autres configurations qui sont extrêmement intéressantes avec les Suns, et notamment bah, quand tu n'as pas Nurkic, ou même avec Nurkic, tu peux aussi avoir des schémas très polyvalents et très, bah, là aussi très proactifs pour le coup, très beaucoup plus agressifs. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Kevin Durant, on le sait depuis notamment la période Brooklyn, mais même l'an dernier en playoff, on l'a vu. Cette année, je trouve que c'est un peu pareil. La défense en second rideau de Kevin Durant, c'est quelque chose que je trouve de très très bon niveau. Et ce qui permet à la fois aussi un peu de compenser ce côté Nurkic peut être attaqué au panier, mais aussi juste parfois sur des schémas un peu différents ou des schémas un peu small ball, on peut voir aussi ce genre de configuration, et avec un Kevin Durant en second rideau ou en, voilà, qui fait un peu le balayage, le safety défensif, mm-hmm. T'en as d'autres rôles comme ça. Donc après voilà, il faudra voir en playoff qu'est-ce que ça peut donner, quel joueur tu es obligé de garder sur le terrain ou pas. Quelle configuration tu es obligé d'adapter, hein, si tu dois, je sais pas moi, tu dois défendre contre les Warriors, c'est pas pareil qu'une série contre Jokic, évidemment. Mais voilà, je trouve qu'il y a du moins bon et du très bon, parce que j'aime particulièrement les séquences et la configuration un peu small ball, un peu switch, un peu agressif finalement, un peu petite de ces Suns-là aussi.
Ouais, bah c'est vrai qu'on n'y croyait pas trop, hein, à cette possibilité-là, là, d'un 5 small ball en début de saison, en préjugeant du fait que ça allait être un petit peu compliqué en termes de taille, peut-être qu'effectivement, le cheat code un peu là-dessus peut être le fameux bol-bol qui est un petit peu au-dessus des attentes et qui finalement, même du côté défensif, où on pouvait craindre qu'il soit un gros problème et un gros facteur négatif, ne l'est pas tant que ça dépend des séquences. En tout cas, sur ces séquences-là de switch, il arrive petit à petit à rentrer un peu dans les bonnes rotations, on va dire. L'apport de Royce O'Neal permet aussi aux Suns de jouer sur ces configurations-là en small ball plus grand, on va dire, globalement. Donc c'est quand même assez intéressant et effectivement on le voit de plus en plus. Le mot peut-être sur lequel j'ai envie de relancer mes amis que tu as prononcé et qui me semble vraiment être un facteur clé cette saison, c'est l'agressivité. Tu as parlé tout à l'heure, Hicham, mais je vais peut-être te donner la parole là-dessus, de l'agressivité des adversaires sur nous en attaque, qui peut être un qui tout double, mais qui s'est révélé plutôt intéressant comme arme à utiliser les blitz, les prises à deux. Nous de notre côté, alors sans aller jusqu'à ces plays très spécifiques, on va dire, sans aller non plus jusqu'à de la défense tout terrain ou quoi que ce soit, on sent que du côté des Suns, le maître mot, enfin le baromètre, c'est vraiment l'agressivité. Quand on arrive à trouver le bon curseur au niveau de l'agressivité, on est vraiment bon en défense, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat, Hicham? Qu'est-ce que tu penses de la défense des Suns?
Ouais, d'une manière générale, elle va en s'arrangeant au fil de la saison. On a très mal démarré au niveau défensif. On était vraiment dans le dernier tiers sur les 25 premiers matchs et 25-30 premiers matchs. Et puis sur les 25 suivants, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça va, c'est en bonne voie. J'ai envie de rendre à César ce qui lui appartient. Greg a quand même dit en début de saison que lui croyait fort en small ball 5. Et puis bon bah la réalité lui a donné quand même relativement raison que effectivement le 5 avec Durant qui a joué pivot par séquence parfois des pans entiers de quatrième quart-temps, on l'a vu contre Sabonis en particulier, ça nous a pas mal marqué ce match un peu tournant là d'il y a un mois et demi ou je sais plus combien bon du début de saison où vraiment il avait fait le boulot sur Sabonis en fin de match et même en switch sur Fox etc. Il avait été excellent sur ce match-là et d'autres aussi. Donc le small ball 5, oui, bonne idée, pas tout un match évidemment. Bon, il y a Nurkic, hein, heureusement qu'il est là d'ailleurs, mais Nurkic qui au passage moi m'a bluffé défensivement, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît son sujet, pareil, je rends à César ce qui lui appartient, Guillaume, avec ses analyses vraiment pertinentes, et bon, il connaît le jeu. Donc, et puis,
Bof.
Oh, si. Quand je te dis en général, voilà,
Tout
j'apprends
est une
beaucoup de
question de
choses.
curseur, hein, t'sais, c'est toujours moins que Steve Nash, mais toujours plus que nous, quoi. C'est pas mal, tu vois, déjà.
Ah, il est bon, il est bon. Et du coup, bah lui, il savait pour Nurkic que ce que moi je savais pas. C'est-à-dire que moi, au début de saison, je me suis dit, ah, on prend un pivot qui est tout pour l'attaque, mais en défense, ça va être un plot et puis ça va être une sérieuse liability. Preuve que je connais pas le sujet comme il faut, je le reconnais humblement puisque la saison lui a donné raison et m'a donné tort. Heureusement, j'en suis très content. Donc vraiment, c'est vraiment un des facteurs très positifs, Nurkic, qui se positionne bien dans pas mal de compartiments défensifs, pas seulement tout ce qui touche à la rim protection ou le rebond, mais aussi, j'aime bien ses blitz justement, hein, tu me demandais d'évoquer ce sujet-là plus particulièrement. Et ben lui, il peut rentrer dans ces schémas de jeu où il s'agit d'aller mettre la pression sur le porteur de balle, il le fait plutôt bien. Il laisse pas trop la place pour le split, c'est-à-dire laisser la possibilité à l'attaquant de splitter les deux défenseurs à la D-Wade de la bonne époque. Il sait couvrir ces zones-là et du coup, il oblige souvent le porteur de balle à vraiment faire le tour et puis faire le tour de Nurkic. Bon bah, c'est une révolution quoi le truc. Donc voilà, il prend de la place et du coup, tout ça, c'est des signaux assez positifs. Après, d'une manière générale, ce que ça engendre derrière, à mon sens, c'est sur half-court 7, vraiment le jeu de demi-terrain, les Suns ne sont pas trop mauvais dans la première vague défensive, j'ai envie de dire, mais on a tendance à très mal protéger le le rebond offensif, donc à prendre le rebond défensif. Et du coup, on offre quand même beaucoup de possibilités à l'adversaire de marquer sur des rebonds offensifs. Voilà, où en début de saison, on voyait souvent des errances défensives qui faisaient qu'un joueur se retrouvait tout seul, super libre, nous punir régulièrement à 3 points, par exemple. C'est de moins en moins le cas, voilà, heureusement. Mais il faut encore gommer, faut que, sur l'aspect défensif, j'ai envie de dire le gros point noir pour moi de la défense des Suns, qui doit encore être bien travaillé, c'est assurer ce rebond défensif qui fait que tous les efforts de la première vague défensive n'auront pas été vains. Parce que malheureusement, bah, c'est à mon sens ce qui arrive trop souvent, c'est qu'on défend plutôt pas mal pendant pendant quoi, peut-être 15 secondes, et puis les 3-4 dernières secondes, malheureusement, de la possession sont perdues parce qu'on n'a pas fait de bon box-out, ou voilà, on a laissé un joueur tout seul parce que Booker ou Eric Gordon ou voilà, un joueur a décidé que ça ne servait plus à rien d'aller défendre dur en close-out sur un shoot à 3 points. Et c'est ça qu'on doit gommer. Vraiment, pour moi, c'est cette finition de défense. Et si on ne le fait pas, on ne va pas aller loin en play-off, je pense, c'est sûr. Et si on le fait, par contre, on peut vraiment devenir redoutable parce qu'il y a d'autres aspects du jeu. Je suis surpris, par exemple, de voir que notre équipe se positionne et sur la saison et plus particulièrement depuis le début d'année parmi les très très bonnes équipes en contre. C'est incroyable pour une équipe aussi petite de taille par rapport au reste de la ligue d'une manière générale. Vraiment les seuls grands, c'est Durant et Nurkic, mais on arrive à faire beaucoup de contre, des interceptions aussi, donc tout ça c'est des aspects, c'est pas toute la défense c'est sûr, mais c'est des bons aspects de la défense. On arrive à protéger l'arceau de manière plutôt correcte d'une manière générale, mais voilà, c'est gâché par des fins de séquence défensives où voilà, on prend des rebonds défensifs et des rebonds offensifs sur la tronche et ouais, ça nous coûte cher quoi.
Mais c'est vachement intéressant la problématique du rebond que tu évoques, d'autant plus qu'il y a une certaine anomalie en fait. J'ai l'impression, moi, mon sentiment on va dire, c'est qu'on a peut-être tendance un peu trop à se reposer sur la sécurité qu'offre Nurkic au rebond défensif. Pour le coup, c'est assez comparable à ce qu'on faisait avec Ayton quand il était là, c'est-à-dire qu'on se satisfait du fait qu'on ait un gros babar qui va prendre de la place, faire ses box out et tout machin, sauf qu'effectivement bah, ça se construit à plusieurs aussi un rebond quoi, donc il y a un peu ce côté-là en défense où on n'est pas performant, et c'est d'autant plus frustrant qu'à l'inverse, du côté des rebonds offensifs, bah, on est plutôt très bon en fait quoi. On arrive à prendre beaucoup de rebonds offensifs nous dans ces matchs-là, donc enfin c'est assez frustrant. On a d'un côté des arceaux quelque chose, et on n'arrive pas à le reproduire de l'autre côté, du côté de notre défense. Et comme tu dis, Hicham, c'est quelque chose qui s'est beaucoup produit cette saison. Ça peut être très 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 frustrant en tant que fan de voir une possession bien se dérouler, t'as réussi à faire prendre un shoot de merde à l'adversaire, évidemment il le rate, mais par contre t'assures pas ton rebond parce que bah, ça rebondit du mauvais côté, c'est-à-dire du côté où n'est pas Nurkic hein, tout simplement, et là du coup c'est mort, c'est pour l'adversaire et ça fait 2 points direct. Donc effectivement c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu et qui peut parfois nous pénaliser, et on voit qu'on est d'ailleurs plus à l'aise contre les équipes qui sont un peu plus faibles dans ce domaine-là, comme les Lakers là qu'on vient d'affronter. Je reviens là-dessus parce que c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal au rebond offensif sur cette rencontre, mais eux sont mauvais globalement sur la saison de ce côté-là, donc du coup ça explique peut-être un peu le bousin.
Si je peux juste rajouter en deux mots, vas-y, après je laisse Greg parler, excuse-moi Greg, juste pour aller là-dessus, une petite stat, parce que vous savez que j'aime bien ça. Mais quand Nurkic est sur le terrain, les Suns prennent un pourcentage de rebond défensif de 24,7%. Le chiffre, on s'en fiche, mais en gros, c'était une performance dans le 87e centile. C'est-à-dire que quand Nurkic est là, le rebond défensif, voilà, mieux que 87% de tous les autres joueurs à son poste, notamment. Donc c'est bien, mais par contre, c'est le différentiel qui est cruel, c'est parce que c'est le plus gros différentiel de toute la NBA quand lui est sur le terrain, ou alors quand il y a son ou ses backups. Mais ouais, ça dépend aussi de est-ce qu'on a Drew Eubanks, est-ce qu'on a un Bol Bol, ou alors même est-ce qu'on a un small ball avec Okoji qui est essayé en poste 5 maintenant pour gommer un peu son manque de spacing. Mais voilà, excuse-moi Greg, je te laisse parler.
Non, mais je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, c'est ça qui... En fait, je vais faire le lien entre ce qu'on disait à propos du small ball et les facultés au rebond de Yusuf Nurkic et surtout son importance. qu'en fait son backup et les autres solutions qu'on a au rebond sont tellement inefficaces. Ouais. Il est le seul à représenter une réelle valeur sur l'objectif de rebond dans un match. Qu'en fait, quand il n'est pas là, autant jouer le small ball et autant jouer le scoring à outrance. Je ne vois pas l'intérêt de mettre un Eubanks sur des minutes abusées si c'est pour que le type ne joue pas les rebonds et ne soit pas capable de faire prendre des rebonds. Donc, ma première justification du small five aujourd'hui, maintenant que ça fonctionne un petit peu mieux qu'en début de saison, c'est justement que si on n'est pas capable de prendre des rebonds, il faut qu'on ait sur le terrain une armada offensive qui, avec des pourcentages d'adresse qui soient insolents, juste pour étouffer et faire en sorte que les rebonds n'existent pas. Faire en sorte que les possessions soient les plus longues possibles avec les shoots les plus difficiles possibles pour l'adversaire. Et de l'autre côté du terrain en attaque, faire en sorte que les shoots rentrent. Donc ça, pour moi, c'est l'utilité de développer un small five qui fonctionne. C'est de rentabiliser les minutes où Nurkić n'est pas sur le terrain avec une valeur différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher des rebonds, on va chercher du scoring et un différentiel de points basé sur une attaque à outrance et sur une adresse létale, quoi. Ça, c'est le premier point pour faire le lien avec ce qu'on disait à propos du small five précédemment, il y a quelques minutes. Et puis pour revenir à Nurkić, et à Durant, parce que finalement, la pertinence de Nurkić cette saison en défense, quelqu'un a tweeté un truc que Hicham nous a envoyé il n'y a pas très longtemps dans notre conversation. Nurkić, il est dans des centiles très élevés sur les compartiments défensifs, mais moi, je trouve que c'est notamment le fait de Kevin Durant, et je relance encore une fois les dés que Guillaume avait lancés sur la table tout à l'heure en disant que l'apport de Kevin Durant en défense était vraiment très très haut et très intéressant cette saison. Moi, je suis 100% d'accord avec ça et je trouve même que ça frise l'élite. Alors, je suis peut-être biaisé en tant que fan des Suns sur le sujet, mais honnêtement, l'apport de Kevin Durant à côté de Yusuf Nurkić, moi, je trouve qu'on a une raquette défensive qui est non seulement, très efficace et de grande valeur, mais surtout sous-côté. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que ces deux joueurs posent autant de problèmes. Je pense qu'effectivement, à l'arrivée en play-off, les équipes vont s'ajuster et comprendre que cette raquette va poser des problèmes défensivement et qu'il y a des coups à jouer quand ils ne sont pas là, l'un ou l'autre, sinon les deux. Mais clairement, d'ici la fin de la saison régulière, on va pouvoir capitaliser là-dessus, de la meilleure des façons. Parce que là, à l'heure actuelle, sur les matchs qui sont joués en ce moment, même si Kevin Durant est moins efficace en attaque, l'entente Nurkić-Durant en défense, c'est vraiment top, quoi. La dissuasion physique de Yusuf Nurkić et l'intelligence en aide de Kevin Durant, ça fonctionne vraiment super bien. Et ça, pour le coup, en début de saison, j'aurais pas donné un euro sur ce pari-là, quoi, clairement. J'aurais gardé, je me serais acheté une banette et puis c'est tout, quoi.
Ouais, un euro, c'est ça, ouais. T'habites à Paris.
C'est clair. Ça coûte 30 euros. Les baguettes, elles sont à 6,50€ ici.
mais c'est très intéressant. Et effectivement, je pensais à ça pendant que tu en parlais. Finalement, on peut presque faire. J'ai pas envie d'être blasphématoire dans ce que je vais dire. On va parler vraiment de rôle plus que vraiment de qualité de joueur, parce qu'on est loin de l'excellence vraiment de ce duo-là. Je vais le dire dans un instant. Mais en termes de rôle, ce qu'arrive à faire la paire Nurkić durant cette saison, c'est un peu comparable à ce que fait la paire Yanis Brook Lopez du côté de Milwaukee depuis des années maintenant. C'est-à-dire que tu as vraiment des rôles très identifiés, de gros poids dans la raquette du niveau, enfin du côté du pivot, donc vraiment sur du drop basique très souvent, on va dire, et à l'inverse un comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, un free safety avec une envergure complètement dingue qui peut rattraper des coups du côté de Kevin Durant. Donc effectivement, Kevin Durant n'est pas au niveau défensif de Yanis, on est d'accord, malgré son gros taf, et Nurkić est très loin du niveau de Brook Lopez en termes de protection d'arceau. Mais dans le schéma, on est un peu dans cette idée-là, et c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Enfin, les qualités des joueurs collent bien avec ça, et ça donne du poids un peu à notre raquette. Ça répond peut-être aussi à la question que posait Hicham tout à l'heure, c'est un peu l'anomalie d'être une bonne équipe au contre, alors que voilà, on n'a pas de spécialiste attitré cette saison. Toi, comment tu vois ça, et plus généralement, ouais, cette question-là de la protection du panier, qui est très importante évidemment en NBA.
Qui c'est, moi, pardon?
Oui, toi, Guillaume, pardon. Oui, parce que... C'était pas clair du tout.
Je disais que je parle beaucoup, je voulais pas prendre la parole d'autre, mais
tu es là pour ça.
je comprends ce que tu veux dire. Après, sur la comparaison, tu vois, une des forces justement de la raquette de Milwaukee, en tout cas avant qu'il y ait des coachs qui commencent à faire n'importe quoi.
Oui, effectivement, on parlait plutôt de la version Budenholzer.
C'est ça. J'aime, ouais, beaucoup, mais... j'aime beaucoup le pluriel au coach.
Eh ben oui, mais oui, maintenant il y en a deux hein, qui font n'importe quoi. Bon, ça aurait été marrant d'ailleurs de voir Doc Rivers. Enfin, il est chez vous d'ailleurs en début de.
Oui,
début de
ah, bon, voilà, il est pas chez nous.
Dieu nous en a préservé.
C'est ça, exactement.
Allez, mec, les deux croyants directs, ils invoquent
ouais, c'est ça. Ah ouais, là, je te dis,
j'aime l'idée.
Les cierges ont cramé, quoi.
Bon, alors, bref, non, ce que je dis, c'est que mine de rien, la force de cette raquette, c'était d'arriver à verrouiller complètement le panier, quoi. Et c'est vrai que ça, on l'a pas trop pour l'instant. On a, comme dit, une équipe qui autorise pas mal de tirs au panier, malheureusement. Donc, c'est là-dessus ouais, où je pense qu'on ressent le déclin physique de Nurkic. Mais en même temps, l'autre aspect intéressant, c'est de voir que ben, Nurkic peut aussi pratiquer des couvertures un peu plus différentes. On parlait de edge, on parlait de monter un peu plus sur les écrans, faire un peu des prises à deux, ou en tout cas des trucs un peu différents. Donc il y a cet avantage aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un peu toujours ce côté, qu'est-ce qu'on va finir par choisir en fait ? Est-ce qu'on va aller complètement sur du small ball, sachant qu'en small ball, moi j'aime beaucoup ce que devient sur sa fin de carrière, Kevin Durant en aide en second rideau, etc. Mais justement, il est assez mauvais rebondeur lui pour le coup. En termes d'aider son équipe à prendre des rebonds, ben, il n'est quand même pas très bon. Il n'a pas un gros impact. Donc il y a ça. Ou alors de l'autre côté, je me permets pour reformuler, est-ce que tu passes sur du small ball, mais du coup tu te prives aussi de côté offensif en fait, de Nurkic, notamment parce qu'on a parlé du short roll, du passing, mais il y a aussi le fait que ben, parfois il reçoit la balle sous le panier, et ben, c'est un gros intérieur. Quoi. Donc il a la position, il peut scorer par-dessus. Tu vois, j'ai souvenir de par-dessus Anthony Davis il y a quelques jours, là, ou des trucs comme ça. Voilà, c'est un intérieur, donc c'est un scoreur professionnel. Donc, il y a cet aspect-là. Est-ce que tu choisis de garder Nurkic ou est-ce que tu pars sur du small ball, mais qui donc est peut-être un peu plus défensif, mais aussi avec ce compromis de bah, du rebond aussi, comme on dit. C'est tout un jeu des fameux vases communicants, comme je dis souvent. Chaque profil a un peu ses avantages et son compromis. Donc, il faut arriver à trouver quelle bonne formule utiliser à chaque fois. Et c'est vrai que tu vois, j'ai pas été totalement convaincu. Que j'aime bien Drew Eubanks, mais je suis pas totalement convaincu. Par contre, j'ai bien aimé un peu les tentatives là, récentes de mettre Josh Okogie en poste 5 pour en fait faire le choix offensif, de dire ben, on le fait jouer parce qu'on en a besoin. Alors défensivement, il n'est pas 5, hein, défensivement il est 3 ou il est 2, il est sur le meilleur joueur adverse, Luka Doncic ou autre. Et puis on défend, et puis en attaque, par contre, c'est le 5, quoi. C'est celui qui pose l'écran et puis ouais. Ça permet de maximiser le spacing. Donc, ouais, je pense que en effet, ben, comme beaucoup de monde, hein, quand t'as pas un effectif idéal, bah, t'es un peu, tu dois faire des choix, quoi. Est-ce que tu prends ce compromis ou alors celui-là?
Mais ouais, c'est peut-être. Vas-y, je vais te donner la parole juste après. Mais effectivement, pour dire sur Josh, c'est effectivement un peu le bon compromis et ça tire parti du fait qu'il joue un peu au-dessus de sa taille, notamment justement au rebond, et que donc du coup, il peut servir des deux côtés du terrain, de ce côté-là, à la place d'un intérieur, quoi. Entre guillemets, même si voilà, ça restera limité par sa taille. Vas-y, Greg, je t'en prie.
Non, mais c'était pour dire que c'est un joueur qui a été comparé dans un podcast américain des Suns, qu'on aime bien citer ici dans chez Valley Hoop, qui est The Timeline, mais Mike donc de The Timeline avait comparé Josh Okogie à un pivot qui a pas la taille d'un pivot. En fait, il a le jeu d'un pivot.
Ah non, il avait pas dit ça. Parce qu'à un moment ils ont été énormes, ils ont quand même dit en fait Giannis c'est juste Okogie en plus grand. Et ça va. C'est absolument génial. Ouais, parce
alors,
que bon,
j'allais y venir.
Les traits sont gros, mais on est aussi loin finalement.
Ouais, en fait, j'allais y venir, mais en fait, grosso modo, t'as une sorte de Mitchell Robinson, mais de 1m60, quoi. Grosso modo, c'est ça le truc.
C'est sans doute plus exact, effectivement.
Tu vois, t'as un type qui n'est pas vraiment capable de shooter, qui pourtant a des élans en rebond, en défense, et un seul incroyable. Donc, t'as vraiment un profil presque psychologique, tu vois, de Mitchell Robinson, sauf qu'en fait, c'est un chihuahua qui se prend pour un Doberman, quoi. Et le seul truc qui lui manque, c'est 30 cm de plus, tu vois. Et là, tu aurais un pivot qui serait pertinent, même sans doute en titulaire NBA, tu vois, dans une équipe qui veut jouer des défenses âpres, comme ça a été le cas avec Thibodeau et Mitchell Robinson à New York. Donc moi, j'aime beaucoup cette comparaison et je trouve que Frank Vogel, effectivement, je te rejoins Guillaume, est assez ingénieux dans son utilisation de Okogie en le plaçant au poste de pivot, en tout cas dans le 5 à jouer 5. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, ça donne raison à cette théorie qui est tellement absurde que moi, je l'adore. Et du coup, je trouve que son absurdité vis-à-vis du rendement de Josh Okogie et de sa production sur le terrain est validé. C'est-à-dire que le rendement, ce que propose Josh Okogie sur le terrain, cette inaptitude au shoot et en même temps ce côté très précieux au rebond et dans le hustle, c'est presque de l'ordre de l'absurde et du baroque. Mais moi, ce côté baroque, je le trouve intéressant et je suis content qu'on ait insisté sans le trader et que Frank Vogel lui trouve une utilité sur des minutes assez réduites, hein, finalement, parce que là maintenant il est descendu entre 5 et 10 minutes de temps de jeu sur les derniers matchs. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça plus intéressant d'abuser des minutes de Drew Eubanks, qui pour moi est vraiment compliqué à jouer au poste 5. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est allé chercher Tadej Ussion.
Et puis il y a un côté, c'est vraiment le spécialiste défensif attitré, ouais, des Suns,
ouais, donc
il y a vraiment ce côté-là, mission, tu l'as dit tout à l'heure Guillaume, sur les porteurs de balles notamment, on a besoin de lui, parce que voilà, personne n'est capable de fournir ce qu'il fournit de ce côté-là, avec, on en avait parlé là pour le coup dans le bilan la semaine dernière, mais des statistiques individuelles avancées en termes de steal percentage et de block percentage pour son poste, encore une fois, qui sont complètement démentes, donc il y a vraiment, voilà, de l'efficacité pure dans ce qu'il propose, quoi. Mais si on va peut-être avancer un petit peu, puisque je vois que l'heure tourne, et se poser alors peut-être sur deux trois profils dont on n'a pas trop parlé jusqu'ici. Allez, on va se garder ces deux joueurs là dont j'aurais bien aimé parler avec Guillaume pour lui demander, puisqu'il t'a évoqué finalement les trois autres titulaires assez abondamment. On va finir sur Bradley Beal, mais peut-être un petit mot autour de Grayson Allen et de son adaptation au jeu des Suns. Nous, on est épatés, on ne s'attendait pas du tout à ça. On
n'a
pas assez conquis, évidemment.
Mon corps a fondu.
On n'a peut-être pas assez regardé Grayson Allen jouer les années précédentes. Hein. Franchement, on peut aussi faire notre mea culpa là-dessus. Il y a vraiment, au-delà de son rôle de shooter d'élite, au-delà du fait que c'est un joueur qui a toujours défendu dur et qui défendra toujours dur, même si c'est pas le meilleur défenseur du monde. Donc au-delà de ces deux qualités auxquelles on pouvait relativement s'attendre, et on sait qu'au niveau du shoot, il est au-dessus de la mêlée, vraiment au-dessus de ce qu'on pouvait s'attendre, et au-dessus de la mêlée en NBA cette saison. Il y a vraiment dans le jeu, dans le ce qu'on pourrait appeler jeu courant, coucou à nos amis rugbyman, un côté très précieux de Grayson Allen qui s'est installé au fur et à mesure de la saison, donc on peut le dire, de l'adaptation à ses coéquipiers et au système. Toi Guillaume, est-ce que tu as vu ça aussi de ton côté? Est-ce que ça t'a surpris et comment tu juges l'importance de Grayson Allen dans le jeu des Suns aujourd'hui?
Surpris et pas surpris en même temps, parce que moi j'ai toujours beaucoup aimé Grayson Allen, un peu contre vents et marées, parce qu'elle est... je sais pas si vous vous souvenez, là ça va mieux, mais à une époque c'était un peu le joueur dirty, vous savez, même à l'époque de la fac et tout ça, le mec qui mettait des coups de pied, et voilà, il se traînait un peu cette réputation, mais moi j'ai toujours beaucoup aimé parce que voilà, déjà on a un shooter d'élite vraiment de très très haut niveau qui est à 40% en carrière et 40% chaque saison à 3 points depuis qu'il a une NBA quasiment, à part sa première année rookie, mais voilà. Et c'était même, en fait, il faut se rendre compte que c'était un peu une star à Duke, et c'était une star avant aussi, hein. C'était quelqu'un qui était très très haut placé dans les rankings, je crois qu'il devait être top 20, top 30 en sortie de lycée, donc voilà, pour dire, il y a quand même un peu de ballon, quoi. Il y a un peu de skills, c'est pas juste un peu le no-name qui débarque en NBA qui a juste un shoot, quoi. Donc là où ça a bloqué un peu, c'est en termes de création, et c'est pour ça qu'il n'a pas fait le step-up entre un peu star de lycée et choix très haut de draft en NBA, un peu la création qui a bloqué parce que la taille, etc. Ok, mais oui, il a beaucoup de ballons, comme on dit, et c'est vrai que moi j'aimais beaucoup à Milwaukee, surtout la 2022, mais tu vois, on voyait tout le bienfait qu'il pouvait faire à une attaque de Milwaukee, avec ce côté très fluidificateur de jeu, le passing, enfin voilà, ce qu'il pouvait faire en termes de créateur dans les niveaux inférieurs, mais qu'il n'a pas pu faire au niveau supérieur, évidemment, à cause de la taille, qualité athlétique, etc. Bah, ce qu'il faisait au niveau inférieur en termes de création, toutes ces qualités de passe, de vision de jeu, d'instinct, etc., bah, ça se transpose dans NBA, non pas en tant que créateur, mais en tant que fluidificateur, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que le décalage est déjà fait, il peut attaquer un close-out, il peut faire le bon choix, il peut, voilà, il y a un aspect de très, 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 comment dire, faire du bien à une attaque, en plus du shoot, donc ce passing, ce mouvement en fait qu'il apporte à une attaque. Après, l'interrogation que j'avais, c'était aussi la défense, et je dois dire que je suis pas sûr que J'ai pas les réponses à mes doutes pour l'instant. On verra en playoff comment ça se passe, mais on sait que ça s'est un peu passé comme ça. Je crois que c'est 2022, la série contre Boston, où il est pas mal, pour, c'est un euphémisme, mais il est pas mal ciblé par Tatum et par les Celtics. Donc il y a toujours un peu cette problématique. Donc en un sens, je suis pas surpris parce que j'ai toujours beaucoup aimé, mais par contre, là où je suis un peu surpris en effet, c'est que je m'attendais pas à ce que, avec les blessures de cette saison, il ait un rôle aussi gros et qu'il soit aussi important. Tu vois, moi je m'imaginais un peu le côté 7e, 8e homme de rotation qui fait 18-20 minutes de jeu par match, qui fait du bien, mais dans son petit rôle. Je ne m'attendais pas à ce que, là, cette année, il pallie magnifiquement les blessures et qu'on ait un vrai élément important qui a quoi ? Il a plus de 30 minutes par match, je crois, cette saison, et qui a un vrai rôle. Quoi.
Garder dans le détail, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur cette question.
Il est à 33, ouais. Donc 33 minutes de jeu par match, c'est quand même assez énorme. Donc oui, je suis surpris de à quel point il est capable de prendre cette ampleur.
Total au carrière, je vais acheter ça. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, vas-y.
Vas-y.
Non, je disais, je suis surpris de à quel point il peut faire du bien, mais non pas sur un rôle de juste de backup, mais sur un rôle titulaire cette saison et un grand rôle, quoi.
Oui, c'est ça. Et effectivement, il y a une question d'importance aussi dans le dispositif général. Comme tu le dis, ça se voit vraiment sur les minutes. C'est effectivement 33, c'est largement sa plus grosse moyenne en carrière, sachant que les deux saisons précédentes avec Milwaukee, où il avait un rôle de titulaire quand même, il était à 27 minutes et demi, quoi. Donc c'est très loin. Hein. C'est 6 minutes de moins, c'est beaucoup, quoi. Ça fait vraiment une grosse différence sur la moyenne. Alors effectivement, tu l'as dit, Guillaume, c'est aussi lié aux blessures, mais là, quand on voit effectivement à quel point il est utilisé et important dans tous les systèmes, enfin dans la plupart des systèmes des Suns, quand il est sur le terrain, il y a vraiment une importance dans le jeu, comme tu dis, qui est peut-être supérieure à ce qu'on pouvait attendre, sans que son volume de tir soit vraiment plus important. Et on l'a dit la semaine dernière, c'est peut-être un peu le seul point frustrant nous. Allen, on en avait pas mal parlé avec Hicham la semaine dernière. Greg, est-ce que tu as un petit mot à ajouter sur lui?
Oui, c'est l'inattendu pour moi, vraiment. Par mes connaissances, ce que tu disais, hein, on n'a pas assez regardé. De toute manière, bon, on regarde très peu. Enfin, moi, personnellement, je regarde assez peu les autres équipes, malheureusement, par manque de temps. Mais clairement, là, en Grayson Allen, puis là, je regarde les chiffres, c'est phénoménal. Mais je pense que même lui, il ne l'avait pas prévu, quoi. Mais le truc, c'est qu'on est dans le 98e centile.
En même temps. En même temps, j'ai envie de dire oui et non. Pardon, je te coupe encore, il y a un truc qui s'appelle pas contractière, mais il va pouvoir signer un nouveau contrat à la fin de saison.
Ouais,
si, on a mais la... il est même en contractière, je crois, tout
ouais.
le monde, en fait.
Oui, il est en contractière et on a la possibilité, nous, de le re-signer à des montants tout à fait honorables. On a encore un peu espoir de le garder, mais 98e centile sur tous les trois points, donc 99e sur tout ce qui n'est pas corner 3 et ensuite 98e dans le corner. On est à 58e centile sur attaque de cercle. L'an dernier, c'était 45 pour lui. Moi, je trouve ça vachement intéressant. J'aime bien le voir attaquer les close-out et essayer d'aller finir au cercle. Il n'a pas un pourcentage de ouf, hein. Il est à 65%, mais c'est quand même très honnête. On est loin des 80% de Bradley Beal à la belle époque à Washington, mais c'est quand même très honnête et ça reste, disons, proto-menaçant. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Après, si je devais faire une critique de Grayson Allen, juste je donne un dernier truc absolument hallucinant, c'est 66% en efficiency field goal, 98e centile, c'est juste fou, quoi. On parle d'un titulaire NBA, on ne parle pas d'un mec qui a 5 minutes et qui, par hasard, rentre ses shoots. Non, on parle d'un mec qui peut prendre jusqu'à 12 shoots par match et il est à 66%, 98e centile. Voilà, bon. Top. Franchement, top, quoi. Top. Et en plus, il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que Kevin Durant, à côté de ça, fait une saison phénoménale aussi au pourcentage. Donc, le seul défaut que je pourrais lui donner, peut-être, c'est parfois des prises de décision, et notamment sur l'attaque de close-out ou sur l'extra pass, de refuser de prendre le shoot. Je ne serais pas contre des pourcentages qui descendent un peu de 1 ou 2 points pour des shoots qui seraient pris alors que le défenseur commence à monter sur lui. Il y a moyen de choper des lancers. Voilà, on est une équipe, je crois qu'on est la meilleure équipe pour provoquer des lancers, alors qu'on n'est pas forcément l'équipe qui attaque le plus le cercle. Donc on a quand même un style de jeu sur nos shoots qui provoque du lancer franc. Et j'aimerais que Grayson Allen soit dans cette dynamique. Ce n'est pas tout à fait son cas. Je trouve, en tout cas à l'eye test, je n'ai pas vérifié dans les statistiques, peut-être Guillaume t'as plus de billes que moi sur le sujet, mais je trouve notamment sur les deux ou trois derniers matchs quand il n'y a pas Bradley Beal, que ça parfois ça fait un petit peu trop l'extra pass et ça attaque un peu trop le close-out, là où il y aurait peut-être le timing de prendre le shoot, surtout qu'il a, il décoche, je trouve, relativement vite. C'est évidemment pas Steph Curry, mais ça déclenche assez vite le shoot. Voilà, c'est le tout petit détail que je pourrais lui faire. Et puis des fois, il se fait trouer en défense parce qu'il n'a pas forcément les appuis latéraux de Jaden McDaniels ou de Mikal Bridges, belle époque, mais je lui pardonne ça parce qu'en attaque, c'est absolument époustouflant. Et puis au-delà de ça, le comportement dans l'équipe, beaucoup de discrétion, beaucoup de, disons, de volonté de bien faire sur le terrain. En dehors, les réponses aux interviews me plaisent beaucoup parce qu'elles sont souvent assez explicites et assez, dénuées du trop-plein de langue de bois qu'on peut trouver par ailleurs chez Devin Booker ou chez Kevin Durant, qui a plutôt tendance à m'agacer. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi cet aspect-là chez Grayson Allen. Et encore une fois, je trouve que son utilisation démontre à quel point Frank Vogel, à mon sens en tout cas, dans ma perspective des choses, fait un super boulot à la tête des Suns.
Ouais, ça fait ça fait partie du comment dire, des bonnes surprises, on va dire. Enfin, la manière dont le niveau supérieur de Grayson Allen a été embrassé par le coaching staff et comment il a été justement responsabilisé de plus en plus au fil de la saison.
Oui, parce que je suis pas sûr que ce soit lui qui soit prévu dans le 5 au démarrage.
C'est ça, le plan initial, on l'avait dit, le plan initial, Vogel avait laissé beaucoup de pistes ouvertes. Et effectivement, le plan initial, c'est sans doute pas qu'il ait le quatrième temps de jeu de l'équipe en moyenne, avec, voire même le troisième, je vais pas regarder dans le détail, avec ces responsabilités-là dans le jeu et autant de ballons qui passent par ses mains. Ouais. On va enchaîner très vite, histoire d'avoir le temps d'en parler aussi, avec Bradley Beal. Guillaume, on n'en a pas parlé pour l'instant, quasiment pas. C'est presque paradoxal vu à quel point beaucoup de choses reposaient sur lui cette saison. Comment tu trouves Bradley Beal, sachant que il a joué à peu près la moitié des matchs avec Phoenix cette saison, il est de nouveau blessé en ce moment, il devrait revenir a priori là dans la semaine sur un des deux matchs contre Houston. Comment toi tu juges son intégration aux Suns et son rôle dans le jeu de l'équipe des deux côtés du terrain, parce qu'en défense c'est aussi assez intéressant, je pense.
Eh bien, je trouve que quand on l'a vu, il était pas mal, mais qu'on l'a pas beaucoup vu. Et même, tu vois, j'ai été surpris quand on a fait un podcast sur qui est-ce qu'on devait envoyer au All-Star Game, un peu en roster du All-Star Game, on était surpris de voir qu'il avait joué pas mal de matchs, en fait. Il a joué 30 matchs cette saison. Je m'attendais un peu à moins, et je pense que c'est aussi le fait que... déjà, je regarde pas tous les matchs des Suns, donc j'ai peut-être ce biais-là. mais il y a aussi le fait qu'il ait un rôle moins important, évidemment, qu'il a pu avoir par le passé. Alors, sans doute même que le rôle, à la fin, à Washington, était largement un peu exagéré. Après le cycle avec John Wall, il a eu beaucoup plus de responsabilités. Et lui, justement, il a été testé un peu en rôle héliocentrique. On a vu que ça marchait pas trop. Là, c'est vrai que cette saison, je le trouve pas mal dans son rôle. Et je me demande à quel point est-ce qu'il pourrait pas, justement, y avoir un peu une deuxième vitesse, passer la deuxième, voire la troisième, pour monter un peu encore en régime, parce que pour l'instant, on est sur un joueur qui en termes de volume, en tout cas, et même en termes d'emprise sur les matchs, on va pas dire role-player non plus, mais on est quand même loin du joueur qu'on a connu par le passé, qui pouvait faire plus en termes de volume, et peut-être plus aussi en termes de création, parce que tu vois, même au niveau des chiffres, ça se recoupe un peu cette impression visuelle. On a un joueur qui est beaucoup plus assisté que ça a pu être le cas par le passé, avec une hausse assez significative, hein, comparé encore une fois à ces années Washington. On est à 55% de ses paniers assistés, alors qu'avant il était à 46 ou même 41 par le passé, et surtout au niveau des 3 points en fait. C'est peut-être ça le point clé. Moi je pense qu'il a peut-être une image de shooter d'élite, alors qu'il n'a pas vraiment été ça depuis pas mal d'années. C'est pas vraiment un shooter d'élite, c'est plus un bon ou un très bon shooter qu'un shooter d'élite. Mais passons. Mais en tout cas, ça se voit au niveau de ces 3 points où il en prend beaucoup en catch and shoot. Et je me demande à quel point est-ce qu'il pourrait pas un peu forcer sur le volume d'attaque en général, mais aussi un peu sur ce côté pull-up à 3 points qu'on n'a pas trop vu pour l'instant, je trouve. Et ça peut aussi être un élément qui, je trouve, est assez important parce que, comme dit, c'est un bon jump shooter, mais c'est pas qu'un jump shooter, Bradley Beal. C'est aussi un driver et c'est peut-être le driver le plus enclin à aller au panier, ou en tout cas. Moi, la version, c'était quoi? C'était 2021, je crois. Ouais, la version 2021, un peu dans son prime, on va dire. C'était quelqu'un qui allait très souvent au panier et qui était hyper efficace, qui avait aussi de très bons chiffres de provocation de lancer franc. Et effectivement, pour l'instant, en rôle réduit. Mais je pense que c'est pas plus mal pour l'instant, vu le retour de blessure et vu un peu ce qu'on est en train de mettre en place. Et il y a un peu cette double carte, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour l'instant, on joue sur la polyvalence de « il peut aussi jouer off-ball », mais je m'attends aussi à ce qu'il y ait certaines sorties en play-off où ils prennent un peu plus de responsabilités, pardon, et que l'attaque passe aussi sur certaines séquences un peu plus autour de lui, en fait.
Ouais, c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui reste en chantier, et c'est évidemment dû au fait que bah, là, ces absences intermittentes, on va dire, c'est les absences qui sont intermittentes pour l'instant, donc c'est plutôt ouais, une bonne chose. Mais voilà, n'aide pas la construction sur le long terme du jeu autour de lui et de ces séquences qui vont être, comme tu l'as dit, vraiment décisives en play-off. En fait, on l'a vu très ponctuellement, Bill prendre un peu take-over, on va dire, par rapport aux deux autres stars. On l'a vu, en fait, sur deux matchs. Le match contre les Lakers précédent, celui qu'on avait gagné avec Emma Stone dans les tribunes, ce qui avait déclenché notre bonne série à domicile. Hein, on a les porte-bonheur qu'on peut. Celle-là est plutôt pas mal. Hein. D'ailleurs, je vous conseille Pauvre Créature, c'est plutôt un bon film. On revient au basket, pardon. Et au fait que l'autre match où Bradley a vraiment pris ce gros volume et ce lead offensif, on va dire, c'était contre les Wizards, évidemment, dans un côté revenge game. On voit que, voilà, ponctuellement, il en a été capable. Il y a certains quatrièmes cartons aussi où il a eu un peu ce rôle-là, ce qui a pu permettre de débloquer les situations. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est beaucoup trop intermittent. T'as raison. Enfin, je suis d'accord, en tout cas, avec toi, Guillaume, là-dessus, pour que ce soit vraiment quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer en vue des playoffs. Hicham, qu'est-ce que ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, vu que je t'ai sauté sur la question de Grayson Allen, sur l'aspect Bradley Beal, comment tu vois l'évolution de son, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais dans cette question-là, de ce rôle un peu de facteur X, finalement, parce qu'il peut prendre le lead à tout moment, on va dire, dans le jeu de l'équipe. Comment tu le vois grandir dans ce rôle-là?
Ouais, effectivement, facteur X, là, ça lui va bien cette saison, parce que c'est un peu ça. Guillaume le disait à juste titre, il a ce côté role-player cette année, bah, forcément, nouvelle équipe, nouveau système, nouveau coach, et puis il revient de blessure, donc voilà, il n'a pas pu s'imposer plus s'il le souhaitait. Mais je trouve qu'il fait preuve d'une excellente mentalité, voilà, vraiment team player, sur et en dehors du terrain. Moi, perso, j'adore le personnage et j'étais surpris en début de saison quand on a eu notre ami de Wizards France qui nous a un petit peu dépeint une image de Bill voilà, pas très reluisante. Et puis finalement, bon, moi, de ce que j'en vois cette saison, j'aime beaucoup. En dehors du terrain et sur le terrain, je trouve qu'il fait du bon taf défensivement. Il est allé crescendo au cours de la saison. Au début, forcément, bah, nouveau système défensif. Il était un peu égaré, et ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais avec le temps, il s'est nettement arrangé. Je trouve que ce soit en point of attack defense, ou même, on l'a vu certains matchs, on l'a même vu défendre sur Zion, des grosses séquences contre New Orleans, et il avait fait du très 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 bon taf. Il s'est sacrifié, la preuve, il a perdu son nez deux fois. Voilà, il a pris cher, hein, il a pris des coups, il essaie de provoquer des passages en force. Chaque match, il essaye au moins une fois de prendre un passage en force, ce qui est très bien, et ça montre une attitude très volontariste de ce côté-là du terrain. Donc, perso, agréablement surpris. Je m'attendais à pire, je m'attendais à la serpillière en défense, et pas du tout. Il montre de bonnes dispositions de ce côté-là, et puis ouais, du meilleur général... côté facteur X, oui, parce que bah, la saison telle que voilà, s'est déroulée, le prête à ce rôle-là, et pas plus, mais c'est très bien. Combien d'équipes peuvent se targuer d'avoir un joueur sur le papier du calibre de Bradley Beal pour être un petit peu leur facteur X, ce joueur capable vraiment de débloquer une situation à lui tout seul sur un match. On aimerait que ça arrive plus souvent parce que il en a tout à fait le potentiel quand il n'est pas blessé, mais bah, tout ce qu'on peut espérer, c'est que sur ses 25 derniers matchs voilà, qu'il soit sur une lancée petit à petit et qu'il arrive en pleine bourre pour les playoffs, et c'est là qu'on sera effectivement redoutable, je pense. C'est avec vraiment les trois stars au sommet de leur forme et les role-players qui auront eu le temps de s'acclimater, hein, les nouveaux, Royce O'Neal, Inch'Allah, Thaddeus Young. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé, et j'espère que voilà, il va montrer sur des petites séquences de jeu, quelques bonnes dispositions, même s'il est plus tout jeune. Et ouais, Bradley Beal, je pense qu'on verra le real deal Beal la saison prochaine, à mon avis, en espérant qu'il ne se reblesse pas. Mais je pense que c'est l'année prochaine.
C'est une donnée importante avec lui, malgré tout.
C'est une donnée importante, ouais. Ouais. C'est sûr que ça fait plusieurs saisons maintenant qu'il ne joue pas 50 ou 60 matchs de moyenne. Je ne sais pas combien il en joue, mais peut-être moins que 60, j'en suis à peu près
sûr. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué 60 matchs en NBA, hein, je crois. Ça doit faire au moins 5 ou 6 saisons.
C'est de la poisse, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des blessures peut-être un peu structurelles, entre guillemets, qui doivent être liées à... qui ont des causes peut-être profondes, mais comme le dos par exemple en début de saison, mais il a eu aussi son long de freak injuries là cette année, la cheville, le nez, voilà le l'aine, ça arrive à Booker chaque saison, il a au moins sa petite blessure à l'aine à un moment ou à un autre.
Le hamstring, voilà. C'est le gros classique du Booker.
Ouais, le gros classique, ouais. Ouais.
Ouais, alors je te revole la parole juste pour la redonner une dernière fois à notre invité avant qu'on finisse l'émission. On va peut-être conclure du coup en forme peut-être d'ouverture sur la fin de saison et des playoffs avec une question peut-être un peu comment dire, pas vraiment de je ne demande pas vraiment de faire du doigt mouillé ou de sortir une boule de cristal, mais selon toi plutôt sur quoi doivent axer quel est l'élément de leur jeu que les Suns doivent privilégier, développer, on va dire, là, dans les semaines à venir, dans la perspective des playoffs, puisque voilà, ça va arriver quand même relativement vite. On espère évidemment en être, et en fait, l'un entraîne un peu l'autre. C'est-à-dire que si on arrive à être performant dans le jeu là, sur la fin de saison, il y a de grandes chances qu'on soit en playoffs et avec des arguments derrière. Toi, Guillaume, comment tu. Voilà, qu'est-ce que si tu étais dans le coaching staff des Suns aujourd'hui, sur quoi tu mettrais l'accent dans la perspective de ces playoffs?
Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment répondre à ça parce que je trouve que les séquences où les fois où on a vu les Suns se compléter, tout était déjà bien quoi. Et je pense pas que par exemple il y ait un potentiel pour faire beaucoup plus sur certains défauts parce qu'il y a des limites dues au profil que t'as en fait. Tu vas pas sortir du chapeau un truc, quoique maintenant que je le dis, il y a un truc auquel j'ai pensé tout de même, et c'est l'arrivée de Royce O'Neal. On n'a pas trop discuté de ça, mais je pense qu'on a parlé beaucoup du small ball, et je me demande à quel point Royce O'Neal peut pas venir combler un peu ça, et mine de rien, prendre un peu les minutes de Josh Okogie, qui était sur le terrain beaucoup cette saison, parce qu'il est utile en défense, mais Royce O'Neal, c'est un peu un 3-and-D, en tout cas un ailier, mais avec du shoot, avec du spacing, avec du passing en plus, donc c'est méga bonus, mais surtout, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu cet aspect où, pour moi, Josh Okogie peut peut-être être replacé dans un rôle un peu plus spécialiste ou selon certains match-up ou dans certaines configurations. Et de l'autre côté, pour moi, Royce O'Neal, c'est un vrai titulaire de play-off, en fait. C'est un vrai joueur que, si tu me dis, demain, Royce O'Neal va jouer 29 ou 30 minutes sur une série de play-offs, ça m'irait totalement, quoi. Donc, je pense que c'est un truc qu'on n'a pas trop vu encore pour l'instant parce qu'il vient d'arriver. Mais j'aimerais bien avoir pas mal de ce genre de small ball un peu avec un spacing un peu parfait quoi. C'est un peu l'objectif, et si on arrive en play-off avec cette profondeur, je dis on parce que maintenant je suis fan des Suns apparemment, mais si Phoenix arrive,
bienvenue,
je fais
un podcast avec vous, maintenant je suis on fan des Suns. Mais si les Suns arrivent en play-off avec Royce O'Neal, c'est une vraie addition impactante pour moi, et c'est pas tout le temps qu'un contender ou une équipe qui est haut placée qui peut faire un run ajoute comme ça pour pas grand chose non plus un vrai joueur de rotation qui peut faire un temps de jeu de 30 minutes par match, quoi. Donc ouais, belle addition, et j'ai hâte de voir, en tout cas, je sais pas si je mettrai l'accent sur ça pour répondre à ta question vraiment, mais j'ai hâte de voir, et j'insisterai peut-être un peu sur ce point-là, et voir à quel point est-ce que le fameux small ball, five out parfait dont on parlait tout à l'heure, le switch all, ça peut pas être fait aussi avec Royce O'Neal qui a un rôle plus important.
Bah, vraiment, vraiment très intéressant. Alors, je vois qu'Hicham veut réagir. Je vais lui passer la parole juste après, et puis après, on conclura. Vraiment, moi, je suis ravi de t'entendre dire ça. Parce que je dois t'avouer que moi, personnellement, j'ai été assez surpris du peu de bruit qui a fait cette arrivée de Royce O'Neal dans les analystes, on va dire, généralistes de la NBA. Un peu sous les radars d'une certaine manière. Alors après, c'est pas non plus une superstar, hein, bien sûr. C'est un très bon role player. Mais effectivement, il y a le côté dans le puzzle des Suns, c'était un peu, il y a une forme de chaînon manquant qui autorise beaucoup de choses. J'en parlais un peu tout à l'heure quand je disais qu'il permettait de jouer plus grand sur ces séquences-là de small ball. Et effectivement, moi, je suis vraiment persuadé, mais complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire vraiment persuadé qu'il peut changer beaucoup de choses, enfin apporter beaucoup de choses et sécuriser beaucoup de choses dans les rotations des Suns. Notamment, voilà, je vais c'est bon leitmotiv depuis le début de la saison, notamment parce qu'il comble effectivement un de ces spots juste de rotation pure dont on a besoin en play-off. C'est-à-dire qu'on avait dans l'effectif à peu près 6 joueurs dont on était certain qui pouvaient jouer en post-saison. Là, on en a au moins 7 avec lui inclus, donc ça augmente un petit peu les possibilités, c'est sûr. Après, à voir effectivement ce qui pourra se faire avec Thad Young, évidemment, voire avec Bol Bol, ça reste une énigme. Hein. Il est toujours aussi bon, donc on va voir. Il risque d'avoir des billets en playoff si on y va. Messieurs, Hicham et Greg, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ouais, Hicham, je crois que tu avais un truc à dire.
Ouais, juste pour réagir sur faire une remarque et poser au passage une petite question rapide à Guillaume pour avoir son avis.
On relance rapide.
La remarque, c'est, je pense qu'il a déjà pris sa place et son temps de jeu à Josh Okogie. Je pense que c'est acté de ce qu'on a vu sur les 5-6 matchs qu'il a joué. La qualité de jeu de Royce O'Neale, sa capacité à faire des belles passes, à prendre des shoots quand ils sont là, et même parfois à se les créer. Voilà, il a tout ce que n'a pas Josh Okogie, et il apporte une grosse partie de ce qu'apporte Josh Okogie en défense sur l'homme, surtout sur le porteur de balle quand il est dans cette position en switch. Donc vraiment, pour moi, c'est comme s'il avait déjà gratté au moins une grosse partie du temps de jeu de Josh Okogie. À mon avis, en playoff, on risque de pas beaucoup voir de Josh Okogie. Ça, c'est juste pour ma petite réaction par rapport à ça. Et la question que je pose rapide, c'est, je sais pas si Guillaume, tu as vu un petit peu l'évolution de Bol Bol au fil de la saison. Il n'a pas joué beaucoup au début, puis il a eu quelques minutes, et puis il a été plutôt bon. Et là, depuis, il commence à consolider un petit peu sa place dans le roster. Il montre des très belles choses, en plus d'être un fan favorite. Question pour toi, Guillaume. Est-ce que tu penses que Bol Bol fera partie de la rotation playoff des Suns en avril?
Je pense pas. Je serais surpris. Mais après, moi, j'ai jamais été fan de Wembanyama. Pardon, de Bol Bol, excuse-moi, je confonds toujours les deux.
Moi, c'est les mêmes.
Le chat, c'est genre.
Oh là là, c'est, pardon, pour moi, c'est les mêmes, donc je les confonds.
Le basket chac. Guillaume, non, du basket chac.
jamais été trop fan. Même à la draft, je comprenais pas trop. Si, je comprends, il y a un peu la taille. Taille plus toucher de balle, donc il y avait un peu un potentiel côté un peu shooter excellent, si ça confirme avec sa taille. Mais je pense pas que défensivement, il soit assez fort. Peut-être je peux me tromper, effectivement ça va un peu de mieux en mieux, mais il y a des questions d'équilibre, des questions de comment dire, de centre de gravité un peu trop, de encore trop fin, donc j'avoue que je serais surpris.
Effectivement, et on va voir, hein. Effectivement, ça reste, on en a parlé cette fois-ci, il y a deux épisodes dans l'épisode sur les Bigs, mais malgré ces excellentes performances là en saison régulière, on n'a toujours aucune garantie sur sa jouabilité réelle dans des situations vraiment, vraiment tendues, mais il peut aussi être un plus petit facteur X, quoi. Très long facteur X, mais dans le sens où, voilà, sur certaines séquences, peut-être qu'il peut, il peut servir à apporter de la fraîcheur, même en playoff, on verra. Hein. De toute façon, ça va être intéressant de voir ça sur la fin de saison. Écoute, c'était une très bonne question de fin, Hicham, parce que ça nous a permis d'aborder un peu le seul joueur dont on avait, seul joueur important de la rotation. Il y a Gordon aussi, mais on le gardera pour une autre fois. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu et d'avoir passé cette un peu plus d'heure et demie avec nous dans Valeo. On est vraiment très content.
Merci à vous pour l'invitation, c'était très sympa, et je peux vous laisser, on se quitte avec un tu préfères. Est-ce que vous préférez le retour de Mikal Bridges, mais il y a Doc Rivers qui vient avec, ou est-ce que vous préférez avoir Eric Spoelstra en coach, mais il y a DeAndre Ayton qui vient avec? Voilà, je vous laisse sur ça, merci pour l'invitation. Je vous laisse choisir.
Bon, ça va, moi, heureusement j'ai plus de cheveux, donc on a arraché, tu vois, je suis tranquille.
C'est la dernière fois que tu viens.
Ben, écoute, moi, je t'avoue que, alors, c'est vrai que Doc Rivers a des gros contrats, mais c'est pas si difficile que ça de virer un coach. Et Matisse Bia a pas l'air si près de ses sous que ça. Je ferai tout pour que Mikal revienne. Donc, en fait, je prends l'option 1. Voilà, moi, c'est ma réponse.
Ouais, mais c'est Spoelstra, hein.
Moi,
moi, mais je t'en fous, tu vires de Krivers et puis tu te prends Spolstra après. Non, c'est pas
non, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi, je prends l'option de. Pardon, Mikan, mais je prends l'option de.
Ouais, mais toi, t'es un réaliste aussi, toi, Hicham. Ouais, c'est pas... ça, moi, tu veux gagner. Tu veux gagner le titre, c'est très important, et je comprends.
Non, Mikal Bridges à toute heure du jour et de la nuit.
juste pour le plaisir de la voir.
Même s'il faut déménager les Suns à Dijon, je signe Mikal Bridges.
N'importe où. L'once le saunier, n'importe où. très bien, sur ce name dropping de grande qualité, on va s'arrêter là. Merci à nos auditeurs de nous suivre semaine après semaine. Merci les gars d'avoir été là. On a fait une belle émission. Et merci encore Guillaume. Et à très bientôt dans un nouvel épisode de Valley Hoop.
Merci Guillaume. Ciao tout le monde. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, oh. The sun came out, I went about to drop top.